19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Eh oui, Time Foot du lundi au vendredi, l'avant-dernière de cette émission. Jusqu'à 21h, on est ensemble, 2h totalement football. Avec au menu de cette émission ce jeudi 8 juillet, on parlera, eh oui, de cette deuxième demi-finale Angleterre-Danemark. Sans oublier aussi, peut-être, a-t-on assisté à la vraie fin de Roger Federer sur le gazon de Wimbledon dans ce tournoi du Grand Chelem. Et on parlera, bien sûr, de l'équipe de France. Et oui, il faut en parler de cette équipe de France. De Didier Deschamps peut-être conforté à la tête des Bleus. On entamera, bien sûr. Allez, on commencera à parler, à discuter et aussi à envoyer des petites infos concernant ce Italie-Angleterre du côté de Wembley. Ce dimanche soir, on le rappelle, c'est la finale de 7 euros. N'oubliez pas le numéro du standard, le 01-53-48-3000 pour réagir avec toute l'équipe de Time Foot. Allez, on y va.
Time Sport.
Et voilà, c'est Gogo Time Foot. Fala nous a rejoint, il est avec nous ce soir. Et Fred, comment ça va Fred? Ça fait longtemps Fred qu'on t'a pas vu.
Ça fait longtemps Bilal, écoute, content d'être là pour cette avant-dernière.
Eh ouais, eh ben nous aussi, de t'avoir avec nous Fred. En tout cas, je tiens à te le dire, que tu nous avais tant et bien parlé d'un certain Longoria du côté de Marseille.
C'est clair. Eh
ben, il fait beaucoup de merveilles.
C'est clair.
Et aujourd'hui, on s'exclame de son travail. Hein.
Je suis content que tu t'en souviennes.
Non, mais c'est vrai, Fred, tu as été l'un des premiers, justement, à nous parler de ce monsieur. Un petit clin d'œil aussi à Juan Trossé, qui est sur la route des vacances. On est avec Abdel aussi, notre consultant. Abdel, bon, il ne pleure pas aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il a l'air un peu tristouné. La défaite des Danois. Ils étaient magnifiques, en tout cas, ces Danois.
Ouais, ouais. Bon, bonsoir à tous, très content d'être là, oui. Un petit goût amer, on va dire, parce qu'il y a eu un beau parcours de la part des Danois. Maintenant, on débattra du match dans le premier sujet. Mais voilà, c'est le football, la vie ne s'arrête pas.
Ça va vite dans le football, Abdel. Hein, c'est ça, il faut être toujours prêt, n'est-ce pas, Fala? Eh oui, les Italiens, ils sont prêts. On verra dimanche ce que ça donnera, ces Italiens. On va en parler avec toi, parce que ce soir, il y a pas mal de connaisseurs de ce vrai football. Le total.
Bonjour à tous et bonsoir à tous et à toutes. Ouais, bah écoute, voilà, encore une fois de plus, un pronostic que j'avais annoncé.
Ouais.
Sans aucune surprise pour ma part. Après, on peut en discuter pendant.
On va en discuter.
On peut en discuter, mais après, il faut.
Ah bah.
Il y a des choses à dire.
Il y a pas mal de choses à dire, justement, concernant. Ouais, ouais. Eh oui, concernant cette Angleterre qui passe peut-être, selon certains, in extremis, mais aussi quand même qui allait assez fort, les Anglais. Ouais, eh ben on va s'attarder, c'est le premier sujet de cette émission, parce qu'on va en parler aussi sur la deuxième heure.
Time Sport. Le duel.
Eh oui, Maguire, penalty litigieux et Wembley, c'est un peu les tops, les flops de cette séquence concernant cette deuxième demi-finale qui a opposé les Anglais, les Three Lions, face aux Danois, ces Vikings. Abdel.
Ouais, ouais, et ben une qualification en finale pour les Anglais. Hier, un match assez ouvert entre deux équipes au parcours différent et au style de jeu aussi complètement opposé. Pour moi, pour ma part, on va dire que l'Angleterre a joué à 13 contre 11. Le soutien du public en 12e homme normal et des décisions arbitrales plus que litigieuses. Après, ça se discute. Pour moi, il y avait clairement pas faute, mais c'est le football. On a vu une Angleterre qui a dû jouer au ballon, qui a essayé, qui a dû avoir la possession parce que le Danemark s'est recroquevillé un petit peu trop tôt pour moi dans cette demi-finale. Après, on va dire qu'ils ont un parcours de champion et que c'est un style d'équipe qui a tout pour aller au bout. Il me rappelle, pas la France de 2018, mais ces équipes qui sont là, qu'on n'attend pas, qui sont un peu insouciantes, qui écrasent un peu tout sur leur passage, sans jamais pour autant faire l'unanimité. Après, voilà, c'est bien pour eux, mais c'est le pays du football.
Ouais.
Maintenant, si je peux me permettre, par rapport au Danemark,
oui, Abdel.
Il y avait déjà des prémices du match contre la République tchèque où ils avaient vraiment, on avait l'impression, baissé de pied physiquement en seconde période. On pouvait avoir l'impression qu'ils faisaient le dos rond, mais je pense que c'est une baisse physique. Et hier, ils ont marqué, je pense qu'ils ont lâché.
Les Danois fous de rage, Abdel, aussi, après cet arbitrage, hein, faut le rappeler sur cette seconde finale. Hein.
Fous de rage, mais à un moment donné,
mais quand même.
Ils sont arrivés là en jouant au foot, par leur style de jeu, par leur ADN. Je ne comprends pas pourquoi ils ont laissé l'Angleterre faire le jeu, en gros, ils leur ont laissé pour revenir. Ils sont revenus trop tôt. Après, voilà, au bout d'un moment, quand. De la 35e à la 120e, eh ben, tu veux plus attaquer, c'est sûr qu'à un moment, tu craques. Et la profondeur de banc du Danemark, quand tu perds Christensen de l'année très tôt dans le match, c'est vrai que tu vas pas, tu peux pas, c'est difficile d'aller au bout.
Allez Fred, moi, justement, je rejoins. Alors, c'est danois aussi.
Non, moi je rejoins Abdel sur le fait que certes le penalty il est plus que litigieux, mais avant ça. Avant ça, le Danemark avait lâché le ballon, comme le dit bien Abdel. Avant ça, le Danemark subissait. Avant ça, le Danemark se laissait pénétrer. Avant ça, le Danemark défendait à 9 joueurs dans sa surface de réparation. Donc à un moment donné, quand tu laisses pénétrer ta surface, malheureusement, il y a des décisions litigieuses. Il y a des faits de jeu qui se créent. Ça a été une première mi-temps plus qu'équilibrée, je trouve. Ça a été une deuxième mi-temps où le Danemark a commencé à beaucoup plus lâcher le ballon. Et en prolongation, par contre, là, le match s'est joué que dans un sens.
Ouais. Comment dans un sens? Vas-y,
l'Angleterre avait le ballon, le Danemark sur la prolongation a subi au moins 5 frappes cadrées, au moins 7 tirs. Moi je voyais pas le match aller jusqu'au penalty, très honnêtement. Ouais.
Justement, les Anglais, c'est vrai que là, bon, ça va pas faire plaisir. On a été rejoint par Mourad. Bonsoir Mourad. Hein.
Bonsoir Bilal, bonsoir à tous.
Les Anglais l'ont remporté un peu dans les prolongations grâce à un penalty, on le rappelle, d'Harry Kane contre le Danemark. Et ils ont rejoint ces Italiens dimanche soir, 21h. En finale de 7 euros 2020, Mourad, ça fait parler, ça fait jaser pas mal de personnes. Eh oui, ils n'ont pas filé à l'anglaise, mais quand même, c'était presque.
Ah si, ils ont filé.
Ouais,
ça fait jaser pas mal de personnes, mais pas Carlo Ancelotti, qui l'avait prédit, qui avait annoncé une finale Angleterre-Italie. Non, mais ça fait plaisir, je vous écoutais un peu sur le chemin, vous m'excusez du retard d'ailleurs. Mais ça fait plaisir de voir qu'il y avait une analyse de match, parce que j'ai l'impression que là, il y a un acharnement médiatique sur l'Angleterre, comme si c'était la victoire du Brexit sur l'Union Européenne.
Les Anglais favorisés, selon certains, Mourad. Eh oui.
Les Anglais favorisés, ça on le savait depuis le début. Donc je pense qu'il fallait mettre des plaintes, je pense, avant la compétition. Bien sûr qu'ils ont une voie royale avec Wembley. Bien sûr que l'Italie aussi, avec le stade Olympico, bénéficie aussi d'avantages en jouant à domicile lors des phases de groupe. Mais après, moi, je pense que c'est le groupe le plus solide, le groupe de Southgate. Southgate, j'ai l'impression que c'est le new Didier Deschamps. 2021.
Ah, selon toi.
Donc moi je vois pas comment le Danemark, même si je vois que je sais qu'il y a beaucoup d'adeptes de ce qu'a fourni le Danemark durant cette compétition, mais faut pas oublier aussi que ils ont bénéficié de cette règle du meilleur troisième alors qu'ils démarraient avec deux défaites. Et je pense que c'est simplement dû à cet impact psychologique avec, je dirais pas la blessure, mais avec ce qui s'est passé de très grave pour Eriksen qui les a boostés durant cette compétition. Mais après, l'Angleterre, sur le match d'hier, ils ont les latéraux très hauts, ils sont présents sur les deuxièmes ballons, ils ont les défenseurs centraux qui sont présents, ils ont Harry Kane qui fait le jeu, ils ont la profondeur avec Sterling et Saka, ils ont un milieu de terrain très dense, même si le Danemark, j'ai l'impression que certains les traitent comme un petit poussé. Le Danemark, la plupart des joueurs, ils évoluent dans les plus gros clubs.
Ouais.
Donc c'est le Danemark, je dirais pas que... Je suis assez surpris de les voir en demi-finale, mais ce boost psychologique fait qu'ils en sont arrivés là aujourd'hui, et chapeau.
Ouais, voilà. Peut-être, voilà, on l'écoute concernant cette deuxième demi-finale, hier soir, qui a vu le sacre des Anglais sur ces terres.
Ouais, de ouf, mais après, on va remettre les choses à leur place et on va être
réaliste. Alors, c'est quoi?
Certains pensaient que le Danemark, après le parcours du Danemark, il est remarquable. Faut pas cracher sur cette équipe danoise. Mais j'ai l'impression que le fait qu'il y a eu le fait Eriksen pensait que ça allait aller pour aller en finale. Et là, ça a été prouvé encore A plus B.
Ça leur a servi,
mais ça va pas.
Moi, je suis pas d'accord.
Ça suffit pas.
Moi,
je vais te donner un exemple. 92, tu regardes l'équipe de Danemark de 92. Prends l'équipe du Danemark d'aujourd'hui. Quelle est la différence entre ces deux équipes?
C'est deux gros groupes.
La différence, je répète, quelle est la différence entre...
Non, mais on joue
deux.
Pas au jeu des 7 différences.
Non, moi, je pose juste la question, quelle est la différence entre le groupe de 92?
Pour moi, il y avait
toujours, attends, qui est champion d'Europe et ce Danemark de 2021.
Pour moi, il y avait plus d'individualité du côté en 92 déjà, mais c'était pas aussi du tout le même format. Il arrivait directement en demi-finale.
Du format. Non, mais moi, on va en reparler encore du format. Comme je l'avais dit,
mais pour
ça
moi,
a laissé l'ouverture à des équipes. Si on aurait eu les deux premiers, crois-moi qu'on aurait eu des matchs plus ouverts et on aurait eu plus de bagarres.
Mais le Danemark, ils ont fini deuxième déjà.
Ouais, mais
ils ont pas fini troisième.
N'importe, c'est pas la question. Non, c'était juste pour te dire.
Moi c'est le niveau du jeu, moi.
Alors,
niveau du groupe.
Tout simplement, la chose, elle a été rétablie. L'Angleterre, ils ont été supérieurs. Dis-moi ce qu'ils ont montré le Danemark dans ce match-là. Je respecte le Danemark. J'ai jamais critiqué le Danemark jusqu'à là.
Ils ont montré des belles choses. On a vu un Dolberg transformé. On a vu un bijou de Damsgaard sur coup franc. C'était le seul coup franc d'ailleurs de cette compétition, il me semble. J'en ai pas vu d'autres.
Ouais.
Je sais pas si.
Mais
j'ai vu. J'ai vu un Hollberg aussi intéressant. J'ai vu un Peter Schmeichel qui pour moi est le meilleur gardien du tournoi, un des meilleurs gardiens du tournoi en tout cas. Donc lui, il y avait des choses intéressantes, côté positif. Moi, je pense que le côté négatif, je pense que le point négatif du match hier, c'est le coaching danois. Je pense qu'ils étaient dans une bonne dynamique, notamment Dolberg et Damsgaard. Ils étaient, c'est dans une bonne dynamique et ce triple changement n'a pas porté ses fruits et ils sont engouffrés dans une spirale négative.
Voilà, et on va revenir à Abdel.
Ah, bon, après, comme j'avais dit, hein, ça a été les Trialans, ils ont remis l'Angleterre, ils ont remis
le triathlon sera pour les Jeux Olympiques, voilà. Là,
non, les Anglais, ils ont remis le Danemark là où il fallait le remettre à leur place, tout en les respectant, parce qu'ils ont pas une classe. Alors, Danemark justement, ils les ont respectés.
Bien sûr.
Dans le match qu'il y a eu hier,
Peter Schmeichel, vainqueur de la Cup en première ligue. Ils ont Braithwaite qui joue au FC Barcelone. Ils ont Christensen, vainqueur de la Ligue des Champions. Non, ils ont Delaney qui joue au Borussia Dortmund. Ils ont Hollberg, meilleur recrue des Spurs. Je pourrais continuer jusqu'à.
Vas-y, voilà.
Non, pour moi, vous il y en a qui.
C'est pas un petit poussé. Non, mais il y a des adeptes. Il y a des adeptes du petit poussé de la Coupe de France. Des David contre Goliath. Des esprits Poulidor, etc.
Les Danois
sont là parce qu'ils ont élevé leur niveau de jeu et ils ont un petit boost psychologique. Point barre.
Ah ben, on termine. Vas-y,
je te laisse. J'ai fini.
Alors, vas-y. Bon, on rebondit avec toi.
Abdel, à ce qui se dit, moi, j'étais pas du tout d'accord sur le fait que de mettre en avant qu'Eriksen ça soit un boost parce que c'est pas vrai.
Le fait qu'Eriksen soit
absent dû à ce malaise cardiaque et après vu le parcours du Danemark justement, pour moi c'était pas du tout à mettre en avant. Je pense que t'as dû mal interpréter. Donc à partir de là, c'était ne pas respecter ces joueurs comme tu l'as cité, Mourad, qui jouent. Bah, les joueurs, les personnes ne voulaient pas respecter en général.
En aucun cas, tu m'as vu en train
de. Non, mais je parle pas de toi.
Justement, j'ai respecté.
Moi, ce que j'ai voulu faire expliquer
à certaines personnes, c'est que le fait Eriksen n'est pas un facteur à prendre en compte.
Mais moi,
pour
c'est
aller dans une compétition.
Tu,
pour aller en
tu,
finale.
Tu me dis, c'est ce que moi j'ai dit.
Moi, je te dis,
c'est pas ce que j'ai dit personnellement.
Tu l'as dit plusieurs fois.
Donc, ok, je te ferai réécouter, c'est pas grave, comme je t'ai dit. Il y a toujours des montages.
On a les podcasts. On a les replays, vous inquiétez pas. Et même Mourad les écoute avec Fred.
Je vais les réécouter attentivement.
Bien sûr. C'est ne pas respecter la qualité de l'effectif du Danemark qui sont souvent là pour jouer les troubles faits. Après, ils ont bénéficié aussi avec le tirage au sort de plus ou moins d'un bon coup de pouce des équipes qui pouvaient devant lesquelles elles pouvaient faire la différence. Hier, ça m'a rappelé un peu le match de poule entre la Belgique et le Danemark où ils ont super bien commencé et ils ont baissé un peu de pied par la suite. Et ce que je trouve dommage, c'est que je le répète, mais le fait de lâcher alors que t'es une équipe qui fait le jeu et l'Angleterre n'est pas du tout ce profil d'équipe-là, et ben au final tu te donnes le bâton pour te faire battre parce qu'ils ont commencé archi fort avec un gros pressing, ils sont allés les chercher, ça balançait vraiment devant kick and rush, on va dire les Anglais, et après ils les ont laissé poser leur jeu, c'était un peu des vagues, et au final tu prends un but. C'est vrai que même le but de Schmeichel, je pense que le péno, il l'arrête, mais dans la tête, c'est un manque de fraîcheur, c'est plus lucide, etc. Donc voilà, et c'est dommage d'avoir attendu d'encaisser le deuxième but pour réagir et remettre une patte sur les 15 dernières minutes. Après, je reviens sur ce que tu dis, Mourad. Il avait l'habitude de faire ses 5 changements à chaque fois, et tu sais, quand t'es habitué à avoir ce mode de fonctionnement, tu te dis, vas-y, je vais le faire, ça va m'apporter quelque chose. Mais comme je disais avant que t'arrives, tu perds Delaney, Carbo, tu perds Christensen qui s'est
déséquilibré. En plus d'être Carbo, il était en deçà sur cette partie-là. Il était un peu en deçà de ses prestations
habituelles. Voilà, c'est vrai que les changements, ils auraient pu intervenir un peu plus tard.
On va revenir sur cette Angleterre, Danemark avec Fala, avec Fred, sans oublier Alisson qui nous rejoindra. Abdel et Mourad, notre consultant, vous restez avec nous. Vous pouvez réagir aussi avec nous au 01 53 48 3000.
Time Foot spécial Euro 2021 revient dans un instant. 19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Toute l'équipe, ça parle, et oui, ça parle et ça débat, et oui, avec le sourire de Fred. Hein. Aïe, 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 Fred. Tu iras où en vacances, Fred ? Tu reviens où, toi, en vacances?
Là, pour l'instant, je pense que je vais retourner en Espagne. Hein,
ah, mais en Espagne, de quel côté?
Avant, bah, je restais en France là avec, avec le Covid. Je préfère rester à domicile.
C'est pas très conseillé l'Espagne. Je passe au courant.
C'est pour ça que j'ai mis des hypothèses, mais
moi, je
il faut
sais
que
je
le rebalance.
Alors, ouais, voilà. Destination, je vais aller chez Abdel. Je vais passer deux mois chez Abdel.
Voilà.
Et tu vas me prendre pendant deux mois.
Voilà.
Tu vas voir, tu vas revenir en septembre. Qui déjeunait au lit? Hein? Qui déjeunait au lit avec Abdel? C'est lui qui voit après. C'est lui qui voit. Mais le jus d'orange pressé, ça, c'est
Abdel, il est toujours là avec nous et c'est un plaisir. Tout comme notre consultante que l'on attend, eh ben Alison. Voilà. Alison aussi, elle va apporter de la joie dans ce studio. Avec Mourad aussi. Comment ça va, Mourad?
Ben, ça va très bien. Eh, écoute, oui. On était dans les bouchons parisiens.
Eh ben, c'est justement, on revient. Voilà, on parlait des Danois avec Abdel, avec. Avec Fred, avec Fala, avec toi aussi, et aussi sans oublier ces Anglais. Eh oui, il y a un peu. Je vais revenir, hein, je vais titiller, mais c'est vrai que Mourad, il y a eu pas mal de réactions, Abdel, sur voilà ce penalty. Ouais, ça a fait un peu penser. Eh ben, on reparlait un peu des années. Je me rappelle hier, avant-hier, du grand Milan des années 90. Ça a fait un peu penser à ce penalty lors de la finale Argentine-Allemagne au Mondial 90. Voilà, moi, ça a un peu gâché la soirée.
Moi, j'étais content en arrivant ici d'entendre des vraies analyses de match et ne pas justement faire un focus sur ce penalty. Mais pour parler du penalty, parce qu'il va falloir
sûr,
en parler.
Ils vont en parler,
à vitesse réelle, pour ceux qui connaissent Raheem Sterling, même s'il est frôlé, ça peut avoir un impact justement sur sa conduite de balle et ça peut le bousculer. Là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui prennent, enfin, je passe pas autour de ce plateau, mais d'un point de vue médiatique, qu'on n'a pas pris en compte ce facteur, le facteur de la vitesse réelle, il est très important. Et moi, pour moi, il y a faute, puisqu'il y a un contact à un moment donné au niveau de la cuisse, et il y a un niveau de contact au niveau du genou. Donc, il y a deux contacts. Donc, il y a deux contacts. Donc, je suis désolé pour Melleux, qui faisait un très bel euro jusqu'à présent, mais moi, pour moi, il n'y a pas de débat, il y a pénalty.
Mais par rapport au pénalty, de toute façon, c'est soit. On le voit et enfin soit on dit il y a péno, soit la vie c'est il y a pas péno, il y a un petit peu ou quoi, ça existe pas dans le foot. Après je pense que comme tu l'as dit là, Melle et les défenseurs danois avec les vagues qui se sont pris, Sterling il a beaucoup de jus, les gens ils se demandent d'où il a ce jus, c'est que c'est ses qualités.
Il n'a pas beaucoup joué cette saison.
Il n'a pas beaucoup joué. Au final,
il a joué.
Il a joué la finale, mais il a
très peu joué par rapport à ce que lui donnait comme temps de jeu Guardiola. Et au final, lui, il est arrivé et un mec qui te remet que des coups de rein. Que des coups de rein. Parce que là, c'était vraiment à l'ancienne. Je viens te fixer. Il est venu chercher. Après, il a obtenu.
C'est meilleur joueur.
Pour moi, c'était. C'est vrai que je vais un peu dire tout et son contraire, mais c'est léger.
Ouais.
Mais si c'est léger, c'est qu'il y a faute quand même.
Donc voilà, tout simplement. Et moi, je dirais même plus que l'arbitre aurait pu siffler aussi sur la faute d'Harry Kane à un moment donné. Je sais pas si vous vous souvenez dans la surface où Harry Kane est touché et c'est à peu près la même faute.
Mais est-ce que gardée,
et l'arbitre aurait pu siffler. Mais pour ceux qui disent que ce serait Mike Dean qui serait derrière la VAR, etc., je pense qu'on va un peu trop loin.
Oh non,
il y en
a qui l'ont dit.
Il y a un acharnement médiatique contre les Anglais qui est incroyable. Penalty et la vidéo a été analysée et réanalysée. Voilà, il y a
les Anglais n'ont pas été.
Je pense que c'est légitime.
Ouais, n'ont pas été acharnés aussi. Il y a quelques années en arrière.
Qui ça?
Oui, c'est le revers de la médaille. Les Anglais.
Avec
peut-être.
Les Anglais, effectivement. Les Anglais aussi, en 2000.
À l'échelle du football mondial, je parle.
C'était la Coupe du Monde 2010, effectivement. Ouais. Ils ont été défavorisés sur la frappe de Lampard face aux Allemands. Donc voilà. Ah, ouais. L'histoire est un cycle et la roue tourne.
Voilà, c'est ça. C'est le cycle de la vie, moi.
On peut dire ça.
Ça me rappelle le Roi
Lion. C'est le cycle du football.
Et pour rendre hommage
à Franck Ribéry, la roue tourne va tourner.
Pas Moufassa.
Arrête, tu vois.
Moufassa, il nous a parlé de Moustapha. Non, de Moufassa.
Moufassa. Oui, Fred. Un petit peu de sérieux. Allez, avec Fala, la réaction.
Sur cet euro, il y a deux choses à analyser. Alors, premièrement, il y a ce match face au Danemark et ce penalty. Mais bon, ce penalty, c'est comme j'ai dit au début d'émission, c'est un fait de jeu. Sur des percussions, sur des pénétrations de la surface adverse pour l'Angleterre. Ouais. Donc, à un moment, quand tu laisses pénétrer. Et c'est vrai, Abdel, tu disais au tout début de ta plaidoirie, tu disais des décisions arbitrales en faveur de l'Angleterre, mais au final, il n'y en a qu'une de décision litigieuse, il n'y en a pas d'autre. Ouais. C'est vrai que tu as raison de le rappeler, Mourad. Plusieurs fois, il y a des décisions où peut-être qu'il aurait pu faire même appel à la VAR, l'arbitre, pour l'Angleterre, et il n'a pas fait. Donc il y a une décision, il n'y en a pas plusieurs. Et je finis après, je vous laisse.
Il y a aussi l'histoire de deux ballons sur le terrain.
L'autre chose à analyser,
c'est
les conditions favorables dans lesquelles l'Angleterre ont été mises. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, Mourad, ça, fallait ce scandale en début de compétition. Mais l'Angleterre, ça a été la fin de la compétition et le début de la compétition qu'ils ont accueilli. L'Espagne, ils ont accueilli plusieurs matchs à Séville.
Le Danemark a accueilli à Copenhague, l'Italie a
que il y a Rome.
Ces clubs-là, beaucoup en poule.
Oui, beaucoup en poule.
Et il y a autre chose aussi. Il y a aussi le fait qu'ils ont interdit les supporters de se déplacer. Donc, on a l'impression que c'est vrai que l'Angleterre a vraiment été mis en ballotage favorable sur cet Euro. Mais ils sont pas là par hasard non plus. Et cette victoire, elle est pas volée sur un penalty. Le penalty, comme je dis,
ils ont pris zéro but dans le jeu. Ils ont pris un coup franc. J'ai une équipe solide avec des individualités au service du collectif. Il y a un coach pragmatique. Je l'ai dit, je le rappelle, il me fait penser à Deschamps 2018. Ils ont tout un peuple derrière eux. D'ailleurs, je voudrais, je sais pas si vous avez vu, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu ça. Tout un stade derrière son équipe, même si il y a eu quelques errements et comportements inadmissibles, notamment sur le sifflement de l'hymne danois.
Ils sont mal
comportés les Anglais, mais bon, ça faisait plaisir de voir de telles passions autour d'un match. Et après, c'est de bonne guerre. Les Danois sont les cousins des Anglais. Je vais pas faire mon Stéphane Bern ici, mais la reine du Danemark, c'est la cousine de la reine d'Angleterre, donc tout va bien. Donc ça reste que du football. Non, mais il y a un acharnement médiatique et moi, ça commence à m'agacer.
Ouais. Voilà. Alors.
Non, après pour revenir à ce qu'il a dit, moi je suis d'accord avec lui. Il y a un acharnement sur l'Angleterre et ce penalty. Maintenant, on va revenir justement sur ce penalty. Pour moi, et en plus on voit bien l'arbitre, il a même pas bronché, il a sifflé direct parce que il sent que. Et pour lui, son jugement, il est crédible et il pense avoir raison. Et il a raison parce que, en fait, comme tu as dit, Abdel aussi, comme tu as dit, Ryan Sterling, c'est très compliqué des joueurs comme ça.
Ryan Sterling.
C'est très compliqué.
Ah, c'est
déjà, ils sont vifs et les mecs, ils bougent dans tous les sens.
Ouais.
Donc le mec, il arrive en pleine lancée dans la surface entre deux joueurs. Tu sais, même ne serait-ce que, je sais pas, un effrôlement d'épaule.
Enfin là, il le sait, 250 CRF lorsqu'il arrive
non,
à fond.
Non, mais parce qu'en
fait, peine effrôlée, ça peut rester
bien. J'étais attaquant, donc je sais que j'étais déplacé, j'avais une vitesse. Et c'est vrai que des fois, on pouvait dire, ouais, mais il t'a à peine touché tout. Ouais, il m'a à peine touché, c'est vrai, il m'a à peine touché. Il m'a déséquilibré. Et à cette vitesse-là, le mec, je sais pas, il doit peut-être faire à pleine vitesse comme ça, il doit arriver à combien ? À 15-20 km/h, je vais dire, je sais pas, tu vois, je dis peut-être une bêtise, mais je pense qu'il est à 15-20, ou tu vois, c'est même
pas 30.
Mais alors, imagine, tu vois, ça veut dire que.
15, ouais.
Et on voit bien sur la vitesse de la VAR, sur la vidéo, il prend le haut du genou et il lui fait un croc en jambe. Donc, après, sur plusieurs images, au début, on n'a pas trop l'impression, on pense.
Comme Henri IV avait fait à.
Non, je plaisante.
Non,
mais sérieux, moi,
la vidéo, elle accentue la faute.
C'est ça. En fait,
la vidéo, elle accentue la faute.
Pour moi, il y a un débat, il n'y a pas débat à avoir. Après, le problème, c'est que ça crucifie les Danois aux prolongations.
Ça les a réveillés.
Comme j'ai dit,
ça les a réveillés.
Abdel, je crois qu'il ne comprenait pas ce que je disais tout à l'heure. Le Danemark, c'est pas, je remettais. J'ai jamais mis à aucun moment de la compétition le Danemark en jeu, en doute ou sur le jeu de ça. Je disais que le fait qu'il y ait eu le cas Eriksen, c'est vrai, c'est émotionnel. Comme j'ai dit, c'est la petite touche de Storo. Le Danemark avec le Federiksen qui est sorti sur.
Ça les a décomplexés aussi.
Ça les a décomplexés, mais
ils ont joué sans pression.
Il
y avait un objectif humain.
Pour après aller au bout d'une compétition, tu vois, je dis pas que c'est pas assez, mais c'est très peu pour aller au bout. L'Angleterre.
Est-ce que je peux juste répondre?
C'est comme pour moi l'Angleterre, je les compare à l'Italie. Pourquoi? Parce que ça fait bien 3 ans qu'ils travaillent dans le. Tranquille, serein, ils encaissent, les mecs, on les critique et bam, bam, bam.
Ils sont là, on parle pas. Les donations sont au rendez-vous.
Moi, je vous dis, ils ont eu ce rendez-vous en plus de la Coupe du Monde en plus, contrairement à l'Italie. Ils ont eu la Coupe du Monde en plus, déjà, eux, pour se préparer, contrairement à l'Italie qui a eu 5 enfants.
Donc ça veut dire, pour moi, l'Angleterre, c'est. Je vais pas dire que pour moi, ça je suis pas surpris de les voir là, parce que. Ce qui me chagrine, c'est que je pense que j'aurais préféré voir un Espagne-Angleterre, Espagne-Italie en finale, en vrai. Mais je l'avais dit, je reste sur ça. L'Angleterre, ils sont tout au long de la compétition. Ils ont montré que. Voilà.
Il y a plusieurs choses que je retiens de cet euro. C'est que lorsqu'on exerce une domination, il faut à tout prix concrétiser. Sinon,
la roue peut vite tourner.
On l'a vu avec Espagne-Italie. En fait. On l'a vu aussi avec l'Angleterre, qui aurait pu aussi y passer. On peut dire qu'elle a dominé les débats, même si. Ils ont fait un bon entame de match jusqu'au but, les Danois, avec quelques fulgurances, mais c'est l'Angleterre qui a dominé les débats de manière générale. Mais si c'est pas concrétisé, on peut se retrouver en prolongation avec des blocs bas, avec ces 5 changements, on peut faire rentrer les défenseurs et aller ensuite au pénalty. Donc voilà, concrétiser, je pense que c'est le maître mot. Il y a aussi l'apport des latéraux, qui a été, on le voit avec l'Italie, on le voit avec l'Angleterre aussi, qui ont été le facteur X, le Danemark aussi. Ça a été le facteur X aujourd'hui des tacticiens, c'est les latéraux. Et donc c'est le dénominateur commun que je vois à toutes ces
équipes. On va avoir la réaction d'Abdel.
Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je veux rebondir. Quand Fred, par rapport au, où je disais où l'arbitre était entre guillemets plus favorable, c'est surtout déjà dans des petites fautes, des petits contacts. Quand c'est sifflé pour une équipe et pas pour l'autre, déjà tu dis que il y a deux poids deux mesures.
Après, tu fais bien d'en parler, Abdel.
Sur ce que dit Fala, sur
c'est ce que tu penses.
Pour moi, pendant le match, ça arrive déjà au club. J'ai vu des fautes
sur le coup franc d'un gars.
Et après tu te dis qu'à un moment donné, bon. C'est pas, il va en donner une, on n'est pas en train de.
J'ai compris que c'était ton amourette d'été, le Danemark. Abdel.
Non, mais pour
justement, qu'ils ont été un peu naïfs. Mais je suis d'accord avec Abdel. Ouais. Harry Kane et Sterling sont. Enfin, on met en avant tout le temps la vaillance des Anglais. Voilà, exactement, la vaillance des Anglais, le kick and rush, l'esprit rugby. C'est vrai qu'ils tombent assez facilement. Et ça, ça me déçoit un peu. Après, je suis d'accord avec toi, mais ça prouve justement la naïveté des Danois.
Oui, c'est ça. Il manquait ce petit truc. Après, ce que je disais, Fala, surtout, c'est aussi. Sur comment on appelle ça, sur la prise de décision de l'arbitre. Ouais. En fait, c'est vrai que elle est immédiate. Donc on se dit que le mec, il est sûr d'avoir vu quelque chose. Ouais. Mais après, avec la VAR et tout, tu te dis que peut-être c'était trop trop rigide, c'était trop vraiment point de pénalty, rien, etc.
Bah en fait maintenant je te coupe deux secondes, mais je te rejoins absolument sur ce que tu viens de dire. En fait maintenant avec le VAR, tellement qu'on parle de ce VAR, maintenant on voit bien quand il y a un but limite. On a un temps de réaction pour savoir si on va pas demander la VAR. L'arbitre, pareil, il prend une décision. Après, il a un temps de réflexion. Il est au micro. Attends, il y a VAR avant que tu vois.
Mais l'Euro, ça a bien été utilisé. Enfin, faut le dire qu'il y a quand même une évolution dans la manière d'utiliser la VAR. Et je trouve que dans cet Euro, la décision initiale, la première décision qu'a pris l'arbitre, on essaie quand même de la respecter. Et qu'en cas de fait majeur où là t'es obligé de revenir dessus, il revenait pas dessus. Et donc je trouve que quand même la VAR a.
Il y a plusieurs niveaux d'analyse de la VAR. Il y a la VAR classique.
En fait, je pense qu'il faut laisser l'arbitre
où
aussi.
On a les arbitres assistants qui parlent dans l'oreillette de l'arbitre principal. Il y a l'intervention de l'arbitre qui va voir la vidéo.
Ouais.
Et il y a la non-intervention de la VAR.
Ça a été très peu fait.
Et la VAR, c'est pas la parole de Dieu, excusez-moi l'expression. Mais c'est soumis à une interprétation. Donc ce sera jamais parfait, de toute façon.
Ça sera encore bien meilleur pour le mondial 2022.
Il y a des. Par rapport à ton analyse sur les équipes. Qui peuvent être mis en difficulté ou quoi. Des fois, on va dire que dans des compétitions, il y en a qui sont, entre guillemets, touchés par la grâce. Et l'Angleterre, peu importe ce qu'il y a ou ce qui aurait pu leur arriver pendant le match ou pendant la compétition, tu disais qu'ils avaient un profil. C'est les équipes pour aller au bout, en fait, comme je disais. Tu sais qu'ils n'ont pas pris de but, qu'ils marquent sur différentes actions, différents formats de jeu. Ils changent des joueurs. Au final, ça ne change pas grand-chose dans son système, surtout que par rapport à Deschamps. C'est quelqu'un qui quand même fait beaucoup de choix pendant le match.
Quand c'est Deschamps, on parle de Baraka. Pour rester poli. Et quand c'est Southgate, c'est la chance des Anglais.
Southgate, lui, il a pas toujours deux poids deux mesures. Changer 3-4 joueurs, il essaie, il tente. Et au final, là, ils sont quand même bien en place. Et même si on va en parler après, t'as l'impression que même si l'Italie affiche plus de choses entre guillemets balle au pied ou quoi.
Sur la deuxième heure, on parlera de cette fameuse finale.
Ils ont ce petit truc en plus.
Entre les Italiens et les Anglais. Exactement. On aura une petite page tennis, ça c'est promis avec Federer. On annonce, oui, ça va faire plaisir. Bon, malheureusement à Vivien ou encore à Méchade, voire Valentin et notre réalisateur Yanis. C'est James Harden, contrôlé par la police à Paris. Eh oui. Et son ami le rappeur, Lil Baby, conduit au poste. Voilà, il fallait donner l'info.
Incroyable.
Selon nos confrères du Parisien.
T'as demandé à Yanis.
Yanis, je sais pas, il savait déjà,
hier soir,
quoi.
Tu faisais quoi hier soir,
il savait déjà, Alisson nous a rejoint. Un petit mot, Alisson, concernant ces Danois et aussi les Anglais. Eh oui, on a pas mal débattu là avec Fala, avec Mourad, et aussi Fred et Abdel. On t'écoute, Alisson. Bonsoir.
Bonsoir à tous et à toutes.
Bonsoir.
Concernant cette équipe déjà du Danemark, moi c'est une équipe qui m'a beaucoup séduit. Au-delà du fait que ce soit le malaise de Eriksen qui se soit passé, en termes de jeu, c'est une équipe que je trouve très qualitative. Je trouve que ça a très très bien joué durant toute la compétition. Je pense qu'avec l'Italie, c'est les équipes qui m'ont donné le plus d'émoi et qui m'ont fait le plus.
Et c'est cela, voilà.
À regarder. Ensuite, j'ai entendu beaucoup de choses.
Alors.
Je pense déjà sur l'histoire du pénalty. Pour moi, il y a pénalty, c'est clair.
Oui.
Dans le sens où il y a
contact. Ils ont un peu jalousé, mais c'est vrai.
C'est vrai. Il y a contact dans la surface, dans la surface. Quand on respecte le règle, c'est pénalty. La même chose si c'était nos amis français qui étaient dans la même situation. On n'aurait pas crié scandale et tout le monde se serait tué. On aurait bien été content. Donc, il faut savoir rester objectif aussi parfois dans la vie. Et surtout que Sterling est en pleine vitesse, etc. Et vous avez déjà tout évoqué. Je pense que ce qui a fait défaut à cette équipe du Danemark, malheureusement, c'est physique. Ils ont connu des prolongations, donc physiquement, ça a craqué face à une équipe anglaise qui n'était pas flamboyante non plus. Hein. C'est pas une équipe anglaise qui a tenu le ballon. On n'a pas assisté à des scènes où on a vu 2, 3, 4, 5 passes à la suite. Mais c'était une équipe qui se projetait très très vite vers l'avant. C'est une équipe qui a su noyer le Danemark par ses vagues qui étaient très tranchantes vers l'avant. C'était quasiment une action vers l'attaque, quasiment une occasion de but. Et là, quand physiquement ça pioche, eh ben ça finit toujours par craquer. Voilà, c'est logique.
Pourquoi ça a pioché
au final,
alors Fred,
l'Angleterre s'impose.
Ouais. Fred,
et pourquoi ça a pioché? Enfin, le Danemark, ils n'ont pas fait de prolongation avant celle-ci. L'Espagne, ils ont fait trois prolongations et physiquement, ils ont quand même tenu face à l'Italie.
Ils sont préparés. Ouais, parce que c'était trop hétérogène.
En Espagne, notamment plus petits gars, bah, pour l'Espagne, les Danois. Hein.
Pour l'Espagne, lorsqu'on mise à 100% sur la possession, qu'on a une défense assez faible, généralement, ça donne des prolongations ou des victoires poussives. Parce qu'on sait qu'on peut compter sur un potentiel offensif. Pour revenir sur l'Angleterre et pour rebondir sur ce qu'a dit Alisson, certes, le jeu anglais n'était pas flamboyant, mais c'était volontaire de la part de Southgate. Parce que pour lui, c'était la victoire du pragmatisme avant tout.
Enfin, quand même, il y a des actions plus.
On a eu beaucoup d'exemples où le jeu a fait, ou parfois, lorsque le jeu est prôné, on peut assister à des éliminations précoces. C'est le cas de l'équipe de France.
Souvent dans les compétitions.
On pourra revenir sur ce débat avec la corporation de Karim Benzema, avec l'évolution des schémas.
On va revenir sur l'équipe de France.
Effectivement, on peut aboutir à une élimination précoce. Mais là, c'est le coaching de Southgate. Donc pourquoi saluer Deschamps d'un côté et dire que Southgate de l'autre côté ne prône pas du beau jeu? Donc voilà, moi je voudrais, sachant qu'il a beaucoup été décrié aussi. Et c'était un peu le chat noir c'est le chat noir du pays avec l'élimination.
Tu fais bien d'en
parler.
Avec le
penalty raté en 96.
On est d'accord.
Avec le fait qu'il ait des Marcus Rashford, des Grealish, des Foden sur le banc et l'utilisation à défaut ou pas de Saka, de Sterling qui avait pas trop joué cette saison, de Harry Kane avec cet entêtement avec Harry Kane qui avait du mal au début. Donc là on voit que
les Anglais les plus méritants peut-être. On va revenir de toute façon sur ces Anglais, sur ces Danois avec toute l'équipe de Tam Foot. Vous restez avec nous. La dernière pause de cette première heure et on revient ensemble.
Tam Foot spécial Euro 2021. Reviens dans un instant, 19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Allez, on est de retour sur l'antenne de Beurre FM, on est ensemble jusqu'à 21h en ce jeudi soir avec Alison, notre consultante Mourad, Fallah, Abdel et Fred. Et on va s'attarder sur Wimbledon.
Time Sport, le sujet des sociaux.
Le sujet des sociaux.
Le sujet des sociaux.
Eh oui, il a été éliminé de cette édition, du côté de la Grande-Bretagne. L'Helvète, Roger Federer, et en conférence de presse, il s'est exclamé de dire une phrase type j'ouvre les guillemets, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Eh oui, Abdel, c'est comme dans le football, ça va très très vite aussi le tennis, n'est-ce pas, Fred?
C'est clair, mais Federer, ça fait un an et demi qu'il est out, qu'il se prépare physiquement, qu'il se refait une santé. Là, c'était un peu son comeback, c'était un peu son retour. Il se fait éliminer 3-7-0, le troisième set, il le perd 6-0. Donc le problème, il est physique pour Federer quand ça fait un an et demi que t'as pas joué, que tu te prépares, que t'arrives à l'âge de 40 ans. À un moment, tu te poses les bonnes questions. À un moment, c'est normal que Federer, il se demande si ça vaut le coup de continuer, si ça vaut le coup de refaire un grand chelem comme Wimbledon.
Ouais.
Il a 40 ans.
On dit qu'il vieillit, mais des fois, c'est les montagnes russes aussi avec lui. Il peut décrocher un grand chelem comme ça.
C'est la régularité qu'il faut chercher. C'est pas.
C'est vrai. Bon, à 40 ans aussi, la régularité, ça va être un peu
difficile. Sortir par la grande porte.
Difficile.
Non, mais
Alisson.
Justement, tu t'as bien fait d'amorcer le fait. Ça fait très longtemps que physiquement, Federer connaît des pépins physiques. Et je pense que champion qu'il est, avec l'ego qu'il a, il fera un dernier grand chelem. Il essaiera de le remporter pour justement sortir par la plus belle des portes.
Moi, Abdel, je trouve
on va terminer avec toi.
Il a voulu tenter vraiment un dernier baroud d'honneur en jouant à Roland-Garros, à Wimbledon aussi, mais que c'est vraiment pour... je pense qu'il se sentait vraiment pas vraiment, vraiment au top et il a voulu, entre guillemets, faire un dernier tour comme ça pour remercier peut-être tout ce public qui lui a donné de la force, parce que moi je pense que, honnêtement, il sait au fond de lui qu'il a plus les capacités pour enchaîner, et je pense que sa victoire à lui, c'est
est-ce qu'on peut dire qu'il a plus les bras comme au foot, on dit il a plus les jambes.
C'est un cheval à bout de course.
Attention, les jambes c'est très important aussi pour eux, mais je pense que non.
Il a les bras, c'est très important. T'imagines quelqu'un courir sans bras?
C'est comme ça qu'ils ont touché Sterling.
Mais je pense que c'est plus important d'avoir les deux. Pour
non, mais plus sérieusement, je pense que
il enfonce des portes ouvertes.
Alors, je pense que son dernier grand chelem, comme elle dit Alison, c'est plus sa manière de faire la tournée des grands chelems que
un jubilé quoi.
Moi, je pense.
C'était le jubilé de Federer, on n'était pas au courant.
Ouais, voilà. Allez, on termine.
On avec le tennis, mais après, le grand chelem britannique. Je pense que Federer, après, je sais pas, on verra ce que l'avenir nous dira, mais je pense que il doit se préparer pour les derniers JO. Je pense que ça sera sa dernière grande compétition, 2024. Failli. Il va les faire, je pense, parce qu'il l'avait dit que son dernier objectif.
Ça serait pas mal.
Mais c'est ça qu'il a. De toute façon, il l'avait dit l'année dernière. Assez sympa, c'était l'année dernière. Il avait dit que les JO 2024, ça serait sa dernière grande compétition si son corps tenait jusqu'à là.
C'est loin, c'est peut-être quand il avait moins de pépins physiques.
Mais c'est loin.
Bah non, c'était justement pendant sa période où il était en plein. Justement, où il avait dit qu'il ferait la passe sur certaines grandes compétitions. Et Wimbledon pour lui, c'est très très important.
Ouais, c'est symbolique.
Ouais, c'est symbolique. Donc il a voulu la prendre au sérieux, cette compétition. Maintenant, faut pas mentir. Il y a des adversaires qui montent en
on ne ment jamais sur l'antenne de Beurre FM, ça c'est sûr.
De toute façon, les gens ne lui en voudront pas d'avoir essayé.
Exactement. Par contre, j'ai un petit. Alors, je sais pas si t'es. Ouais, un petit scoop. Je sais pas si t'as des nouvelles. Louis-Marie, je sais pas.
Ah bah, Louis-Marie, il est dans le sud de la France. Louis-Marie.
Ça fait 3 jours
plus Louis-Marie est dans le sud de la France.
Ah, donc t'as des nouvelles. Tu crois
qu'il est dans le sud de la France?
Tu n'es pas sûr. Voilà, je vais lancer un avis de recherche de Louis-Marie. Je vais lancer ce soir à 21h.
Voilà, Louis-Marie, c'est notre consultant. Et Fala, il s'inquiète pour Louis-Marie.
Je m'inquiète, Louis-Marie, dancing de vie, s'il te plaît.
Fala s'inquiète pour Louis-Marie, mais en tout cas, les supporters du Paris Saint-Germain ne s'inquiètent pas pour le Paris Saint-Germain.
Time Sport, la troisième mi-temps.
Le réalisateur même est très heureux. Eh oui, en la personne d'Achraf Hakimi, en terre parisienne. Eh oui, il est là, il est arrivé. Et il est très heureux, Alisson, lui, de retrouver un certain Sergio Ramos ou encore Keylor Navas. Que dire ? Le Paris Saint-Germain voit tout à fait les choses en grand, même en, je sais pas.
XXL.
Moi, je vais faire beaucoup de... C'est 2022, c'est l'année du Paris Saint-Germain. On l'espère, ça fait 10 ans qu'on le dit, avec Mourad.
Je vais faire beaucoup d'ennemis sur ce que je vais dire. Mais
alors, vas-y.
De Sergio Ramos, moi, elle me je suis mi-figue mes raisins dans le sens
alors.
Où les supporters, là, je m'adresse vraiment aux supporters du Paris Saint-Germain, veulent que leurs joueurs respectent le club, s'impliquent. Mais quand on voit les déclarations d'il y a quelques années de café de Sergio Ramos sur le Paris Saint-Germain, on se demande les vraies raisons de sa venue. Il sait qu'au Real...
Tu peux me rafraîchir la mémoire parce que j'ai...
Alors, il avait dit qu'au Paris Saint-Germain, on ne gagnait pas de titre, que c'était un club très moyen et que de toute façon, ça n'irait jamais. Peu importe.
Trash talk, Alisson.
Peu importe que ce soit du trash talk, moi j'ai du mal parce que
c'est avant un match.
Peu importe que ce soit avant un match, après un match, on fait du trash talk sur d'autres joueurs. Quand on fait du trash talk sur un club et qu'on rejoint moins d'un an et demi après ce club, moi j'ai du mal à me dire en tant que supporter et pour les supporters, est-ce qu'il vient avec les bonnes intentions? Et à ce moment-là, parce que là les supporters s'en réjouissent et c'est une bonne affaire, c'est vrai. Sergio Ramos, il est pas
mal,
il est pas non plus
sur la Ligue 1 Uber Eats
et il a amènera aussi de la sérénité. Mais quand il va pas s'impliquer au Paris Saint-Germain, quand il va faire des matchs en dilettante et qu'il sera pas totalement à fond, et ben là, qu'est-ce qu'on va se dire? Et ben finalement, c'est un mec qui respecte pas le club. Nous, on veut des mecs qui respectent l'institution, mais finalement, on ramène pas des mecs qui respectent le Paris Saint-Germain et qui respectent l'institution. C'est pour ça que moi, je
pense à Daniel Vess, là.
Je pense à beaucoup de gens.
On va l'attraper, lui.
Je pense à Daniel Vess, je pense.
Pour parler de respect de l'institution, pour parler de respect de l'institution, j'aimerais savoir quels ont été les échanges en amont de la négociation sur l'arrivée de Sergio Ramos sur le brassard de capitaine. Est-ce que Ramos va se soumettre à l'institution et laisser à Marquinhos le brassard de capitaine ou est-ce que ça va être le contraire? Et là, encore une fois, et je pense que ça va desservir le Paris Saint-Germain, on va installer un joueur au-dessus de l'institution.
Ça,
je pense que c'est une question centrale. Dans le cas du succès de ce projet, je pense que c'est une question très importante.
Non, mais Thiago Silva, c'était pas la même chose.
Moi, je suis pas d'accord.
Marquinhos, c'est l'un des vraiment les plus respectés.
Ça bougera pas.
Et surtout,
Marquinhos gardera son brassard de capitaine.
Pour faire la parenthèse.
Je pense que c'est un gentleman. Je pense qu'il laissera le brassard à qui de droit.
Moi, pour faire le parallèle.
Alors, c'est Carrick qui a laissé son numéro 4 et ce sera pas. Il y aura un autre.
On parle de joueurs de foot.
Alors, retiré de foot.
J'ai dit institution. J'ai pas dit.
On revient.
J'ai pas dit les 5 pas du PSG.
Juste pour en venir après, moi je pense que dans les négociations, de toute façon, le PSG, je pense que maintenant ils ont bien compris et je pense qu'ils ont tiré des leçons des précédentes.
Voilà, ça fait une dizaine d'années maintenant. J'espère qu'ils ont bien compris. Non, mais je suis sérieux.
Avec Sergio Ramos, de toute façon, ils peuvent pas mettre Sergio Ramos au-dessus du PSG.
Parce que là, c'est pas faux ce que dit.
Non, mais attendez.
Alors, vas-y.
Non, ça sera pas le cas. Parce que s'ils font ça, ce sera la plus grande erreur et ça sera l'échec, là. Justement.
Du Paris Saint-Germain. Parce que demain, sur cette saison.
Ramos, il a son statut. C'est une superstar. Il a gagné de nombreux trophées. Mais il arrive au PSG. Et tu vas tout nous montrer. Tu restes Sergio Ramos, mais tu vas pas venir retirer.
Pardon.
Qui peut. Mais tu.
Ouais.
Attends, il va pas marquer.
Voilà.
Ramos, il va jouer les 38 matchs de championnat.
Par rapport à
il va jouer les 38 matchs de championnat.
Abdel, par rapport à ce que dit déjà Alisson,
alors,
pour moi.
Vas-y.
Marquinhos, c'est lui qui représente quand même le PSG, etc. Donc je pense que en termes d'institution, je pense que c'est vraiment le mec qui la respecte le plus. Donc si lui, tu lui enlèves le brassard, c'est vrai que t'enlèves un. T'envoies un signal. Je pense pas que ça se fera après pour sa venue. Tu parlais des supporters. Je vois où tu vas.
Du club aussi.
Non mais oui c'est ça. Mais surtout quand t'es supporter ou même que t'as envie de gagner des titres et surtout la Ligue des Champions. Eh ben malheureusement t'as tellement investi d'argent sur des joueurs et autres que maintenant tu t'es tellement aussi fait marcher dessus par certains Alves. Ouais. Buffon, il s'est pas fait marcher dessus, mais ça n'a pas été la réussite escomptée.
Cavani, et pour moi, Cavani, pareil.
En fin de contrat, mais un peu moins. Mais.
Attends,
comment dire, j'ai perdu le fil, pardon.
Vas-y, on essaye de le retrouver.
Ouais, juste, t'es obligé, en fait, de faire l'impasse sur des joueurs qui peuvent te renforcer sur le terrain. Tu fais l'impasse sur en dehors pour qu'ils te fassent gagner des titres et te faire la différence sur le terrain. Donc, c'est pour ça que. J'entends ce que tu dis, mais malheureusement.
Ça commence aussi sur le terrain. Pourquoi je fais ce parallèle-là? Quand on veut être un grand club, il faut être une grande institution qui est plus forte que les
gens. Le Paris Saint-Germain est un grand club.
Mais bien sûr que le Paris Saint-Germain est un grand club, mais il manque que le respect. Je veux dire, par là, on fait un parallèle, par exemple, avec un club qui est revenu sur le devant de la scène, le Milan AC. Le Milan AC a connu.
C'est pas mal.
Incroyable pendant ces 10 dernières années. Mais là, pourquoi le Milan revient sur la scène? Parce que tous les joueurs.
Ils sont qualifiés en Champions League, d'ailleurs.
Tous les joueurs qui jouent au Milan AC, c'était on respecte le maillot ici, les gars. Si vous, le Milan AC a fait l'impasse cette année et l'année dernière sur énormément de pépites. Pourquoi? Parce qu'il fallait respecter l'institution milanaise avant de pouvoir.
Moi, j'ai une définition de l'institution.
Ouais. Et j'aimerais bien justement qu'il y ait ce même investissement pour un grand club. Comme le Paris Saint-Germain.
Ah, Alisson, en fait, le travail proprement dit. Oui, Mourad.
Moi, j'ai une définition de l'institution. Ça me rappelle la rencontre entre Abrahamovic et Thomas Tuchel lors de la victoire de Chelsea en Ligue des Champions.
Ouais.
Abrahamovic a fait la rencontre de Thomas Tuchel sur le terrain au moment de soulever la coupe en question.
Il était sur le terrain, Ibrahimovic.
Abrahamovic, le président de Abrahamovic, autant pour moi.
Ibrahimovic.
Ouais,
Abrahamovic. Bien dire Abrahamovic.
Heureusement qu'il n'y a pas de caméra. Là, ça aurait fait un bon gif. Non, je pense que c'est la définition de l'institution. Donc, il y a Abrahamovic tout en haut de l'organigramme. Il y a Thomas Tuchel qui est l'équivalent d'un directeur sportif en première ligue. Et ensuite, c'est lui qui gère le recrutement et gère son groupe. Et le président fait connaissance et rencontre l'entraîneur en question sur le terrain. Donc, ça montre justement qu'il y a une hiérarchie. Alors qu'au Paris Saint-Germain, on a l'impression
que c'est
Nasser Khalifi qui rentre dans les vestiaires.
Oui, mais
on discute avec les joueurs, il y a des échanges, ça va dîner ensemble, etc. Alors que.
Ouais. On revient à
il faut qu'il y ait un respect de l'organigramme.
Il avait une réaction.
Non, mais après, pour revenir à ce qu'elle a dit,
aussi, peut-être, moi.
Absolument d'accord avec elle. Le travail du PSG, maintenant, il va falloir que quand il fasse signer des joueurs. Ouais, parce que. Mais après, je vais te dire, tu sais, respecter le Milan AC ou respecter le Paris Saint-Germain, tu sais, c'est pas les mêmes histoires.
Bien sûr que c'est pas les mêmes histoires.
Mais donc, ça sera plus facile de faire appliquer à un joueur du Milan AC respecte ce maillot qu'à un joueur au PSG. Parce qu'il y a tout à faire dans ce club, parce que ça part en n'importe quoi.
Ça fait 10 ans, l'RQS.
Pas la direction, parce que pour une fois, je trouve que Nasser, il arrive à.
De l'eau a coulé sous les ponts, quand même. Depuis 10 ans, c'est un certain nombre de titres, c'est un parcours beaucoup plus honorable.
Tu l'as dit toi-même. Les joueurs, il y en a la plupart qui, quand ils ont fait des transferts, ils respectaient pas. Moi, tout à l'heure, je vais vous donner un cas. Pour moi, Cavani, ça reste Cavani, il est dans l'histoire du PSG.
mais il n'a jamais respecté le blason du PSG, ce mec-là.
Tu n'as rien à mouiller le maillot, quand même. Moi, c'est ce que je vois.
Tu mouilles le maillot, d'accord, mais est-ce que tu respectes?
C'est aussi. Il n'a pas fait de déclaration publique ou la gauche.
Ouais, mais. Tu vas dans un club et tu fais le job et tu respectes pas.
Non, mais Cavani. Cavani, c'était
l'ancien du PSG. Il faisait le job sur le terrain. Tu veux un exemple?
On termine avec Abdel. Allez, rapidement.
Le fait de partir avant le final.
Il décide de rentrer quand il veut.
C'est pas que lui, c'est pas Story.
Non mais merci,
Cavani, ce qui a surpris, c'est juste aussi le fait que ça, ouais. c'est un joueur qu'on mettait pas en avant pour demander de l'argent ou quoi, et après il a demandé une revalorisation, etc. Ça a été un peu mal vu. Après, Mourad, je suis d'accord avec toi. En fait, le problème, c'est que t'as des joueurs, enfin des personnes comme El Khalaifi qui sont là parce que ils savent gérer un peu de business, etc. Mais qui connaissent rien au sport. Et Leonardo qui avait très bien démarré, et je pense que c'était une très mauvaise idée.
Leonardo, c'était une très mauvaise idée. Consultants et consultants, vous restez avec nous. Deux gros sujets nous attendent, la finale de l'Euro 2020 et sans oublier aussi l'équipe de France avec Didier Deschamps.
Time Foot spécial Euro 2021 revient dans un instant. 19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM pour l'entame de cette seconde heure avec vous, les auditrices, les auditeurs de Beurre FM, en compagnie d'Alison, de Fred et aussi de Mourad, sans oublier Abdel et Fala. On a parlé, bien sûr, de la deuxième demi-finale d'hier soir du côté de Wembley entre les Anglais et les Danois. On parlera aussi dans cette seconde heure de l'Angleterre et aussi de l'Italie, cette finale de l'Euro 2020. Mais on va s'attarder longuement cette fois-ci sur l'équipe de France.
Time Sport, le sujet des sociaux.
Et oui, mercredi après-midi, Noël Le Graët a reçu donc Didier Deschamps chez lui en Bretagne afin de revenir un peu sur les raisons de l'échec dans cet Euro. Et oui, et selon certaines informations obtenues par nos confrères du Parisien, il le fait sous-entendre que l'avenir de Deschamps est déjà en quelque sorte réglé chez les Bleus.
Bah effectivement.
C'est normal, c'était juste histoire de faire un communiqué de presse officiel et de l'écrire noir sur blanc, mais je pense que l'avenir de Didier Deschamps n'a jamais été en péril. Il s'est trompé sur cette compétition. Il était un peu hagard dans ses choix, on l'a vu.
Naïf.
Dans ses choix, que ce soit sur les joueurs sélectionnés ou encore techniquement, il n'était pas à son aise. Là, il a un an pour préparer cet Euro avec Karim Benzema, donc l'intégrer parfaitement à l'équipe. Et la Coupe du Monde, c'est l'année prochaine, donc ça aurait été un terrible
2022 au Qatar.
Exactement, de changer d'entraîneur en cours de route.
Après, il y avait le doute.
Alors, Fred,
en fait, le doute, il était où? Le doute, il était dans le fait que Zidane est libre de tout contrat.
Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute.
Zinedine Zidane était encore au Real Madrid. Zidane. Personne ne se serait posé la question.
Donc j'annonce, Zinedine Zidane est sur le marché pour les clubs.
Ouais.
Non, c'est un scoop ce soir, Mourad. C'est plus qu'une relation d'employeur.
Tu sais pas c'est quoi la relation qu'ils ont?
C'est plus une relation de... C'est des amis.
Ouais.
Mais
non, des amis.
On le laisse terminer.
Déjà, j'enfonce des portes ouvertes, mais moi, en fait, au contraire, moi, je me projette. Alors, toi, le mandat d'Didier Deschamps, il s'arrête en 2022. Si Zidane reprend un club d'ici 2022, tu fais comment si tu veux remplacer Didier Deschamps?
Zidane.
Tu dois attendre, parce que le successeur naturel, c'est Zidane.
Mais en fait, ce qui se passe, c'est que.
Et regarde Donnarumma.
Si
Donnarumma, il est venu.
Ouais.
Il a quand même fait venir. Leonardo a quand même fait venir Donnarumma, alors qu'il y a Keylor Navas. Mais le problème, c'est qu'il
c'est un jeu de chaise musicale.
Timing.
Bien sûr.
Et dans le temps, tu peux pas tout faire comme tu veux. Ah, Deschamps, tu pars après le mondial.
Ouais.
Et c'est Zidane qui vient. Mais non,
tu sais, il y a un grand entrepreneur qui s'appelle Steve Jobs qui disait 10 ans oui, et pour le faire, on réfléchira plus tard. Et je pense que c'est ce qui se passe avec le Paris Saint-Germain. Concernant Deschamps, moi, ce que je trouve le plus aberrant, c'est d'avoir annoncé, je sais pas si vous l'avez vu chez les confrères de Téléfoot, que Le Graët allait avoir une grande discussion avec Didier Deschamps.
Oui, ouais,
ça a pas été le cas. Il a dit que ça a été fait en 3 minutes. Justement, je veux juste aller au bout de mon point, s'il vous plaît.
C'est le terminé, Mourad. Allez, vas-y.
Donc, justement, voilà. Trois minutes d'entretien. Alors que le Gret avait dit qu'il allait recevoir un Guingamp. Donc, si je comprends bien, il y a l'empreinte carbone. Il a fait venir Didier Deschamps jusque Guingamp. D'accord? Les notes de frais, etc. pour lui annoncer qu'il allait rester. Il y a un suspect.
On se moque pas de la
série allemande des années 90. On se croirait dans Derrick. Tout le monde sait que Deschamps allait rester. Pourquoi ce suspense à deux francs?
Non, mais on a utilisé tous les superlatifs pour dire que ça allait être une grosse rencontre, que c'est y allait avoir du changement, etc. Franchement, quand on sait que Noël Le Graët espère que Deschamps prenne sa succession à la fédération, comment tu veux douter que quelqu'un qui est encore déjà sous contrat soit possiblement mis en porte-à-faux, même s'il a fait une compétition plus que moyenne. Après, on se projette, oui, par rapport à Zidane, mais on sait très bien que c'est 2022 ou rien et qu'il n'y allait pas avoir de gros changements. Ça aurait été un coup de virer un mec comme Deschamps. Et surtout, quand ça
Zidane
dépasse.
Zidane n'aurait jamais repris l'équipe de France à ce moment-là.
Ouais. Et c'est surtout que ça dépasse le professionnel. Là, c'est du personnel entre les deux parce qu'ils ont bien accroché. Bon, ça, c'est les atomes crochus entre le président et voilà,
mais
c'est vrai, je pense qu'ils ont beaucoup plus parlé des vacances qu'il y allait avoir que du sportif et de revenir sur ce qu'il a fait, que la compétition était en difficulté. Dernière phrase, sur les 9 ans de mandat là, de Deschamps, si je ne me trompe pas, c'est la première fois où il est vraiment mis en difficulté. Un quart de finale. Une finale, une victoire
remportée. C'est pour ça que moi je suis pour son maintien.
Deux finales.
Parce que j'aimerais voir sa capacité de résilience.
À rebondir.
Justement, à Didier Deschamps.
Il est très sensible, c'est ça le problème.
Alors, voilà.
La question, elle est plutôt. Là, c'est. En fait, qui pensait que Didier Deschamps était menacé?
Il y en a pas mal. C'est pas que les footings. Non, je suis sérieux.
Franchement.
Voilà, il est éliminé.
Donc, c'est pas les connaisseurs du football qui pensaient que Didier Deschamps
allait. Ah, ben, il y en a qui le pensaient,
Donc, c'est au-delà du cas de professionnel sportif. Donc, pour ceux qui sont en interne et tout, ils savaient tous, les gens, ils dormaient.
Il allait rester.
Bah oui. Enfin, franchement, pour moi, excuse-moi, Alison, je te laisse finir. Pour moi, franchement, c'est les gens qui ont fait monter la sauce. Le Graët a joué aussi un petit peu.
Oui, les médias, tu veux dire.
Voilà, les médias, il va avoir une discussion avec Didier Deschamps, mais comme vous l'avez souligné, c'est pas une
c'était
discussion.
C'était fini. D'avance.
C'est un plan de vacances. Ouais. On part où avec nos femmes?
Mais
on va où?
Deschamps est fragilisé.
Il est pas fragilisé, il a appuyé.
Attends, je te laisse finir après.
C'était pas fini, la question se pose quand même. On sait que Didier Deschamps, il a fait un euro moyen, je vais pas le répéter encore. Et là, pour la première fois, on a Didier Deschamps qui est en difficulté et Zidane qui est libre, surtout. Ouais. Et là, c'est la première fois que ce timing-là est parfait.
C'est vrai, d'accord.
On sait que Zidane, c'est le successeur légitime.
Non mais Fred, on ne change pas une équipe qui gagne quand même.
Le groupe vit bien, Mourad. Le groupe vit bien.
On sait que depuis quelques années, on parle de Zinedine Zidane en tant que successeur légitime de Didier Deschamps. Donc forcément,
après Gourvennec n'est plus dispo. Il a signé à Lille.
En plus de ça, on parlait de timing. Et pourquoi je dis que le timing est important? Parce que peut-être que l'année prochaine, une fois que Didier Deschamps sera allé au bout de son contrat, Zidane ne sera plus libre.
C'est ce que je disais.
Alors Fred,
le timing était.
Moi, je suis pas sûr.
C'est ce que je disais.
Je suis pas sûr.
Rapidement, il y a quelque chose qui est intéressant à relever.
Alors,
c'est vrai que là, on voit les choses de manière manichéenne. Deschamps, il reste ou il reste pas. Mais non, Deschamps, il a été fragilisé. Deschamps, il a connu un échec. Deschamps, l'attend au tournant là-dedans. Et c'est là où Deschamps, il est fragilisé.
Pas
son poste qui est fragilisé. Moi, pas arrivé à ce point-là. Mais Deschamps, quand même, et c'est pas que Deschamps, c'est les joueurs. Les joueurs sont avec un gros melon et sur un terrain, on a joué au foot, on sait ce qui se passe sur un terrain, mais on a l'impression quand même que la force de Deschamps, c'est qu'il constituait bien les groupes, c'est que les groupes s'entendaient bien, c'est que le groupe vivait bien, mais on voit bien que le groupe ne vivait pas tant bien que
ça.
Et c'est sur ça qu'ils sont attendus au tournant là. C'est Deschamps, c'est son plan de jeu, parce que c'est vrai que même avant l'Euro, on disait, ok, on gagne, mais il n'y a pas de style de jeu. On a un joueur en transition, ça a payé en 2018. Là, on a vu qu'à l'Euro 2020, c'était plutôt le beau jeu de possession qui a plus été mis en valeur. Et c'est sur ça que Deschamps a attendu, c'est sur un style de jeu. Une compréhension de
du plan
de jeu
aussi,
et surtout sur la gestion
plus.
Du groupe. Et Benzema, peut-être que oui, on a, quand tu prends Benzema, alors tu topises ton football.
Non,
tu prends
voilà.
Benzema, t'as un joueur qui rentre dans l'axe, c'est sûr que tu favorises le beau jeu et peut-être que c'est moins à la mode, ça c'est clair.
En fait, la question c'est pas est-ce qu'il est fragilisé, c'est même pas ça, il est même pas fragilisé.
Si, quand même.
Non, voilà. la différence entre fragilisé et critiqué, c'est deux choses différentes. Si tu dis il est fragilisé, c'est-à-dire qu'il est menacé à son poste.
Auprès de l'opinion publique,
non.
Mais c'est qui qui travaille à l'intérieur, malheureusement.
Ouais. Parce que
ceux qui travaillent à l'intérieur,
les supporters, bien sûr, ils connaissent le foot, etc. Mais au final, ceux qui prennent la décision, c'est pas les supporters.
C'est ça.
Là, ce qui se passe, c'est que moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, que le fait que Zidane, il est disponible, donc ça fait vibrer. Ça, tu te dis pourquoi pas, etc. Mais c'est un rêve par rapport au fait que Deschamps ait eu un échec. Mais on sait, la plupart savent à 99% que ça allait pas se faire. Donc on a idéalisé quelque chose parce que c'est la conjoncture actuelle. Mais on sait très bien que ça allait pas se réaliser maintenant. Après, on attend Deschamps. Il est fragilisé parce que quoi ? Son leadership et sa manière de faire, eh ben, a été remise en cause et il a eu des problèmes contre des équipes moyennes dans la compétition. Donc, on se dit comment il va rebondir, surtout que il a des joueurs qui sont des joueurs qui ont pris en maturité, des joueurs, un joueur comme Benzema qui revient dans le cœur du groupe. Comment il va nous faire jouer? Et je pense que c'est plus dans le style de jeu qu'on l'attend. Mais je pense qu'il faut plus l'attendre sur un point de vue management parce que il a déjà prouvé. Je pense que ça y est.
Et les gens s'attardent sur une
On veut voir Deschamps. On veut voir Deschamps avec des joueurs. On veut voir faire jouer ces joueurs.
On va parler de chaises musicales. Moi, j'aimerais m'attarder aujourd'hui avec les auditeurs et les auditrices de Beurre FM sur ce plan-là, Mourad. Eh oui, Alison, c'est sur un peu cet aspect, excusez-moi.
Tu peux qualifier Deschamps d'abcès aussi, il n'y a pas de souci. C'était gratuit.
Non, mais on s'est bien compris, Mourad, et aussi avec toute l'équipe. Voilà, qu'il y a aujourd'hui peut-être cette gêne avec cette élimination trop tôt de cet Euro et à l'approche de ce Mondial 2022. Non, mais c'est vrai. Il faut voir un peu de cette façon. C'est pour ça que peut-être les médias sont directement tombés sur cette affaire. Zinedine Zidane, et pourquoi pas entamer, mais non.
On donne du grain à moudre aux médias avec cette élimination précoce. Il y a le retour de Karim Benzema, il y a cet échec, il y a la gestion humaine, et je pense que ce sera le défi de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2022.
Peut-être
c'est la gestion humaine de l'effectif.
Il y a eu une cassure humaine.
Je pense pas qu'il y ait une cassure, en fait. Je pense
Toi, tu le penses pas. Non, avec par exemple l'ancien Parisien, c'est tout ce que l'on a vu.
Il veut l'entendre de la bouche d'un psychologue.
En fait, moi, ce que j'ai plus remarqué, c'est qu'il avait plus la main sur certains joueurs, clairement sur certains joueurs. Non, moi, quand je vois la réaction de Coman, pour moi, laisse tomber, ça passe pas. Moi, ça passe pas, ça passe pas.
Lui, il a pas crié.
Ça, c'est de la gestion humaine, Fala.
Justement, tu viens de dire ce qu'il fallait dire. C'est là qu'on voit, avec certains joueurs, ça se trouve, il est arrivé au bout. Tu vois, de la gestion humaine. Mais bien sûr que si, Coman, en 2018, il fait jamais ça. De toute façon, il était
Coman, peut-être qu'il sera pas repris, mais.
Mais je veux dire, il fait pas ça en 2018. Je te le dis, il ne fait pas ça parce qu'il y a une autre philosophie, il y a une autre mentalité.
C'était humble, les joueurs.
Mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer aujourd'hui avec certains, je te dis pas le groupe, mais certains joueurs.
Griezmann en numéro.
Non, pas forcément Griezmann. Moi, Griezmann sur la compétition, il me dérange pas.
Non, mais
il me dérange
pas.
Moi, Coman sur sa réaction, j'ai été joueur et ça.
La résilience, c'est une attitude humaine qui existe.
Je l'ai fait une fois, et ça passera pas. J'en souviens encore aujourd'hui.
Oui, Mourad, il nous disait la résilience. Oui,
non, la résilience, c'est une aptitude humaine qui existe. Voilà, c'est son premier échec. Et moi, j'aimerais le juger sur sa capacité à rebondir.
Merci. Allez, on est d'accord. Mourad, c'est en revenir à ce qu'on disait.
Fala aussi.
Deschamps a aucun regret. Il a été menacé de.
Après, par rapport à Le Graët, que faut-il attendre président de la Fédération française de football, de quelqu'un qui avait nommé Raymond Domenech, qui avait reconduit Raymond Domenech en 2008, notamment. Donc là, le débat, il est beaucoup plus profond. Ce n'est pas simplement Deschamps et sa gestion humaine.
On parlait avec Alisson.
c'est la présidence de la FFF aussi.
La présidence. Avec
quand même. Et je me mets à la place aussi de Moussa Sissoko. Quelle bouffée d'oxygène il a dû avoir quand Didier Deschamps a été reproché. Et je pense à Didier Deschamps.
Pendant 10 ans,
c'est reparti pour un tour.
Alors, Abdel, c'est reparti encore pour un tour.
Non, ça s'agit de même. Je pense que. Il y a des joueurs qu'il a peut-être sous-estimé et il c'est pas un adepte du changement. C'est vrai qu'on a parlé de Sissoko pour avoir une pointe d'humour, mais quand on sait que Ndombele dans le même club a joué plus de matchs que lui, tu te dis que tu non mais tu peux faire le alors je vais dire oui alors non mais
le groupe
je peux
bien
je peux parler je
laisse terminer
cet exemple cet exemple il est pas anodin parce que Sissoko il a pas été prêt à la Coupe du Monde 2018, c'est pas quelqu'un qui était là dans la compétition récente où ils ont gagné quelque chose, donc pour moi il était plus aussi légitime qu'avant. Donc pour comparer des joueurs qui ont été dans le même club, un gars qui a été beaucoup plus titulaire, tu le prends pas. Après moi je l'avais dit la dernière fois. Alors et ça m'avait vraiment choqué qu'on en parle pas, mais même moi ça m'est venu comme illumination. C'est que un mec comme Rabiot, enfin là il était là je crois d'ailleurs, en plus c'est quelqu'un qui avait refusé le fait d'être réserviste, etc., qui avait un peu craché à travers une lettre sur Instagram sur ce poste là alors que des joueurs qui avaient
fait pas les fonds de tiroir Abdel,
non, de France, mais plus sérieusement quand t'acceptes quelqu'un qui a critiqué entre guillemets un poste que certains rêverait d'avoir, ce n'est que réserviste, mais c'est intéressant, ça peut déjà être une représentation et de ce que t'as fait dans ta saison. Et ben tu le reprends et au final quand la situation actuelle se passe, ben t'as des problèmes avec des mecs comme Rabiot par exemple qui a été repris alors que auparavant il y a déjà eu des histoires avec lui et
il a fait son coup.
Non mais Rabiot oui, mais l'entourage qui t'emmène avec toi, parce que la lettre qu'il a fait, Véro, elle doit être derrière, Madame Rabiot, et surtout dernière chose, toutes les histoires,
respectons les mamans,
Histoires qui sont
agence,
sorties,
son agence, pas,
et ben elles, toutes les histoires qui sont sorties sur les histoires entre Mbappé, Griezmann et autres, etc. C'est des choses qui se sont passées après la Coupe du Monde, donc tout est ressorti d'un coup, et après il y a des circonstances qui ont fait que ça s'est amené à des conflits entre pas mal de joueurs.
Allez sur notre consultante, oui, on réagit. Moi, Didier Deschamps.
Là où il s'est trompé, Didier Deschamps, c'est qu'il a managé ce groupe-là de la même manière qu'il a managé même groupe en 2018. Mais c'est pas les mêmes conditions. Là, à l'Euro 2020, ils arrivent en tant que champions du monde.
C'est quoi la même chose?
C'est-à-dire qu'il a fait
il a calqué.
La même gestion, exactement. Là, exactement.
C'est qu'il a repris les mêmes ingrédients pour espérer faire sortir le même plat. Alors que là, c'est pas du tout la même chose.
Il fallait faire quoi?
Si je peux finir, peut-être que.
C'est un interrogatoire,
frère? Je sais pas. J'ai l'impression. Bien sûr. On n'est pas dans une série de Narcos, là.
Tout le monde parlait de la gestion. Qu'ils viennent avec plus d'ego, avec plus d'assurance, ces joueurs-là. Et il fallait un peu dégonfler les égos et manager peut-être d'une manière un peu plus sévère ces joueurs-là pour peut-être aller au bout. Voilà ce que je voulais dire.
Merci, Alisson. On va faire une courte pause. Ne vous inquiétez pas. Mourad, on va revenir à toi. Ne t'inquiète pas avec Fala aussi, tranquillement.
Oui,
Fala. Ouais, Fala, on sent l'été là avec ce magnifico. Voilà. C'est après, c'est les.
Moi, j'attends dimanche.
Ok. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. À de suite.
Time Foot Spécial Euro 2021 revient dans un instant. 19h, 21h, Time Foot Spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Et oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM après cette nouvelle pause en ensemble, je le rappelle, jusqu'à 21h. N'oubliez pas le 01 53 48 3000 pour réagir. On réagit sur l'équipe de France avec Didier Deschamps, Noël Le Graët, peut-être tout à rebâtir sur cette fameuse Fédération Française de Football. Le Présidente, un petit clin d'œil à Kamel Aïdkera qui nous écoute depuis la Suisse, voilà, en vacances. Et oui, et justement, Mourad, on veut te faire réagir. Ah, ben c'est les vacances, Alisson. Alisson, il y en a qui sont partis au Maroc, du côté de Marrakech, ouais, avec. Voilà, Yanis, je crois qu'il va s'y rendre cet été, hein, du côté de Marrakech.
À Marseille.
Moi, à Marseille, tout le monde va à Marseille, là, cet été.
Moi, j'y vais aussi.
Ah ben c'est super. Yacine aussi, mais cet été. Oui, à Marseille. Yacine nous a rejoint.
Marseille,
Boufarik. De Boufarik. Voilà, une petite pensée aussi à Ahmed de Boufarik.
On aurait bien allé à Boufarik.
Ah, c'est magnifique.
Malheureusement, il n'y a pas de vol. Hein.
Ah,
Des belles oranges à bouffer, Alic. Il n'y a pas que de la zlabia.
Il
n'y
a pas que des belles oranges. Il n'y a pas que des belles oranges.
Mais si Larry, on parle de bouffe, bizarrement.
Abdel, on fait quoi durant les vacances
d'été?
Abdel, on fait quoi? On est auprès des jeunes dans les centres aérés? On fait quoi?
Centre de vacances? On va surtout fermer la radio, je ne suis pas d'accord.
Ah, bah oui, Abdel, eh oui. Mais quand même, nous aussi, on a fait une longue saison, Abdel.
On ferme tout.
Il faut le rappeler. Oui, mais on a fait une longue saison depuis. Je sais pas combien de temps on est là. Ouais, c'est ça.
Depuis le mois de septembre.
Ah ouais, mais même. C'était
la saison des clubs.
Ouais, on avait fait. Non, vraiment avec Alison. Attends, Abdel, on est comme Marquinhos, nous aussi. Il y a les crampes qui commencent à arriver, les blessures.
En plus, ils savent pas que tu restes debout.
Il y a les sollicitations du mercato.
Non.
Il y a plein de choses.
Oui. Yacine sera avec nous. Peut-être sera-t-il avec nous, Yacine, à la rentrée. On l'espère.
On a un média qui monte. On a un média qui monte qui s'appelle Shoot Africa. Je pense qu'ils lui font du pied.
Shoot Africa, je dis ça, c'est pas mal.
Shoot Africa.
On a fêté notre 15 millième visiteur.
Ah ben c'est
plaisir.
Ah ben c'est pas mal.
Félicitations.
C'est pas mal.
On fait de la véritable information. On essaie d'être crédible.
Mais aussi le faux.
Comme beaucoup d'informations, des fois, il faut aller vous documenter sur Shoot Africa parce qu'on y trouve beaucoup de, surtout concernant le mercato.
Ah ben c'est très sympa. Voilà, Yacine, Shoot Africa.
Et d'ailleurs, on avait annoncé malheureusement que ça ne s'est pas fait à Lille, Laurent Blanc. Hein, l'information que la maison de Laurent Blanc qu'il avait achetée en campagne lilloise, c'était une information de Shoot Africa bien avant tout le monde.
On revient sur l'équipe de France.
Il en a un grand. Le réseau immobilier est très important dans le marché des transferts.
Là, c'est le plus gros réseau
aussi,
en France.
Hein. Aussi. L'équipe de France, allez.
Time Sport.
Allez, avec Abdallah et aussi Mourad, on revenait justement concernant Didier Deschamps et sa fameuse équipe.
On a fait beaucoup de boutades sur l'entretien de 3 minutes entre Le Graët et Didier Deschamps. Et moi, je trouve ça scandaleux. Quand tu sors d'un échec d'une compétition comme celle-ci, t'entretenir 3 minutes avec l'entraîneur principal, je pense que c'est de l'incompétence. Normalement, il doit avoir un bilan justement de cette compétition, 2 les perspectives d'avenir, 3 la remise en cause du staff ou pas, et ça doit durer bien plus que ça doit durer plus d'une heure. Je dis pas de faire des états généraux du football français, mais quand tu dis que t'as reçu 3 minutes l'entraîneur principal, le sélectionneur français suite à un échec comme celui-ci, sachant que t'avais le selon moi, le plus bel effectif de cette compétition, c'est inadmissible, c'est un scandale. Et, moi, et je dirais même que c'est une faute professionnelle. Et encore une fois, c'est les fans de ce sport qui sont pris encore pour les imbéciles.
Mais t'as déjà vu Noël Le Graët faire une bonne déclaration, toi ?
Quand je dis quelque chose, Fred, prends-le comme argent comptant. Non mais c'est les déclarations de Le Graët lui-même. Il a dit que ça a duré 3 minutes. Bonjour, merci, au revoir.
Tu sais, à un moment donné... Il n'y a pas de bonne déclaration de sa part. À chaque fois, c'est vrai qu'il a du mal un peu avec cet exercice devant les médias. Et comme il dit Fala, juste une chose, c'est qu'à un moment donné aussi, quand on te prend un peu pour un idiot, on croit que tu ne sais pas parler, ben, on donne ce que tu as envie de recevoir. Tu vois. Donc je pense que...
Ça m'étonnerait qu'on puisse prendre un chef d'entreprise qui a 60 ans à gérer un groupe. Ça m'étonnerait qu'il y ait des médias ou des journalistes puissent prendre un groupe comme ça. Hein, attention.
Yacine, tu
parles de l'audience, tu parles de l'opinion publique.
Non, je pense que. Non, moi, je parle vraiment des journalistes. Yacine, il a plus d'expérience. T'as plus d'expérience que moi, mais je pense que dans la profession, il y a plus de personnes qui sont un peu condescendantes et qui n'ont pas la bonne manière de s'exprimer.
Ça peut arriver, mais envers certaines personnes. Pas avec lui, ils le savent très bien.
Ouais, mais je pense.
Il a le bras lent, partout en plus. Hein. Il peut. Ah ouais. C'est pas quelqu'un de. C'est quelqu'un. Si on règne sur le football français depuis je sais pas combien d'années, c'est que vraiment. Là, cette fois-ci.
C'est pas parce que c'est l'ancien maire de Guingamp. Hein.
Ouais.
Non, mais c'est quand même.
C'est pas l'ancien maire de Guingamp. Il te donne la déclaration que tu as envie de recevoir.
Avant tout.
C'est ça.
Avant tout.
C'est pour ça que je dis ça.
Et puis c'est de famille. C'est des gens qui ont un réseau très très puissant. Je pense le réseau breton au niveau de la Fédération française de football, il est assez puissant. Et je pense que Noël Le Graët, quand il a envie d'envoyer un message, ça veut dire je suis le boss, hein, en disant 3 minutes de discussion. Ça veut dire, il n'y a rien. Allez,
on ne veut pas du changement, Yacine. Non, on n'aime pas le changement.
Circuler, il n'y a rien à voir.
Rien à voir. Quand on voit un peu partout ce qui se passe en France, c'est les mêmes pratiques.
Oui, cette formation, ces joueurs.
C'est le même réseau, c'est le même réseau, hein, c'est le même réseau. C'est eux qui gèrent le football, c'est eux qui gèrent le handball, c'est eux qui gèrent le volley, c'est eux qui gèrent l'athlétisme.
C'est eux qui gèrent les crêperies autour de la gare Montparnasse.
Partout, hein. Entre autres.
Non, mais effectivement, Yacine a raison. Yacine, je fais un peu de boutade, mais c'est inadmissible. 3 minutes d'entretien.
On l'écoute, Fred, avant de revenir avec Fala.
Dans l'Angleterre, par exemple, ça aurait été considéré comme une véritable faute professionnelle. Et ça aurait fait parler tout le monde. Et en France, ça passe comme une autre à la poste.
Non, mais ce qu'Abdel a voulu dire, je pense que c'est que souvent,
c'est vrai qu'il a essayé de le dire, mais on n'a pas très bien compris.
Éclaire-nous.
Non, mais c'est ce que je pense. C'est ce que tu penses, mais ce que tu voulais dire, en tout cas, je pense, c'est que le Red a déjà fait des maladresses au niveau communication. C'est vrai que dire, on peut le prendre comme on veut, hein, le fait que c'est duré 3 minutes. Moi, en tout cas, comment je l'ai ressenti, c'est que pour moi, de toute façon, Didier Deschamps.
Parle pour toi, hein.
Pour moi, c'est plus qu'une. Alors, c'est vrai que je dis pour moi, c'est plus qu'une relation employeur à employé. Entre les deux, c'est une relation intime, et je pense que.
Intime, c'est encore grave si ils ont une relation amicale, intime. Hein. Ah oui, amicale, d'accord. Intime, c'est très grave.
Laisse-le envoyer ses petits. Ses petits scoops.
Mais non. Hein,
il envoie que des petits scoops.
On se comprend. On se comprend avec Fred.
Je pense qu'on peut comprendre après.
Bien sûr.
Mais pour moi, c'est plus qu'un employé vis-à-vis de son.
C'est vrai qu'ils ont une relation assez proche.
Ils sont amis et je pense que Deschamps, pour cette remise en question, pour ce bilan, je pense que.
Yacine, ce soir, tu me fais rire. Tu mâches tes mots, on dirait, Yacine. Voilà, on va te. Bien sûr, tu mâches tes mots. On a quelquefois l'impression que, par exemple, on est là, il y a tout. Tout est beau dans cette fédération française de football. Tout est rose. Voyez, on est champion du monde entier.
Mais qui a dit ça?
On parle de formation, je te lance. Si tu veux, je comprends le français.
Il y a quelqu'un qui a dit que la fédération française est bon. Sur le toit du monde.
Elle a mené à la défaite de l'équipe de France.
La défaite, on ne peut pas gagner pendant des siècles aussi, non plus.
Bien sûr, pendant des siècles. L'Italie l'a fait, l'Allemagne l'a fait. Le Brésil l'a fait aussi. Et nous, on ne le fait pas. L'Espagne l'a fait sur au moins.
Tu peux me compter combien de monde ont gagné la Coupe du Monde?
Ouais.
Il y en a pas mal de nations.
L'Argentine, le Brésil, l'Allemagne, l'Italie.
Tu comptes combien de nations?
La France. L'Angleterre une fois. La France est une grande nation du football. Grande formation. Yacine, je te rappelle que hier soir tu me parlais, de Vivier. Excellent, en Île-de-France. Eh ben, on n'est pas à l'échelle de ce Vivier en Île-de-France, de notre football français. Fala, ça l'exclame, ça le fait rire. Vas-y, Fala.
J'ai pas compris la question.
On n'est pas à l'image de ce fameux
pour ce
Vivier.
Ce combat, il était magnifique.
Mais non, allez, vas-y. C'est pas du combat, c'est. C'est les médias, c'est des débats d'idées.
Moi j'appelle ça du combat, c'est bien. Non, après pour en venir à cette fédération et Noël Le Graët, pour en venir à ce qu'il disait tout à l'heure, je pense que oui, officiellement ça a été fait 3 minutes, mais eux-mêmes ils savent déjà.
Mais oui, c'est ce que
Le Graët, il sait déjà, il n'a pas besoin de parler avec des gens. T'as jusqu'à 2022 pour remettre tout ça d'aplomb.
Si l'opinion publique, elle veut s'attendre à un rapport de ce qui s'est passé. Donc c'est ça, en fait. Après chaque compétition, il y a un bilan qu'on doit tirer.
Tu sais, je vais prendre l'article que tu m'as envoyé la dernière fois sur de Noël Le Graët qui a été interviewé, que tu as partagé, et je l'ai suivi, je l'ai lu. Mais
On est ravis, Fala, de savoir
qu'il est malade. Toi, tu veux me piquer?
Je sais pas.
On n'a pas le temps.
Parce que je reviens à ce qu'il disait. Pourquoi tout à l'heure, Abdel disait Le Graët souvent s'amusait lui-même des médias. Parce que comme ils le prennent pour un peu une taupe, je vais jouer la taupe jusqu'au bout, je vais jouer le bête jusqu'au bout. Regarde,
c'est
dans l'interview que tu m'as. Mais tu le vois, le mec.
Non, il fait dans la langue de bois, il botte en touche.
C'est pour montrer que c'est lui le patron.
Exactement.
C'est ça.
Il est le patron. C'est vrai, Yacine, dans ça, il a raison.
Et c'est lui le patron, incontestablement. Personne ne peut placer un mot.
Il finit comme joueur.
Devant lui, personne ne peut placer un mot. La preuve, les scandales qu'a vécu la Fédération française pendant son règne.
Il les a camouflés
et personne n'en parle. Pour vous dire que la presse ne le prend pas pour un camp.
Ça sort un peu.
C'est ce qui est dommage.
Pour vous dire que le bras long qu'il possède, c'est pas. On peut pas. Déjà, au niveau d'un petit club, c'est la guéguerre. Imaginez-vous.
Mais on est en démocratie, il y a des élections. S'il a été réélu, c'est la faute des élections.
C'est une démocratie de façade.
Ce qui est dommage,
c'est le pouvoir de l'argent aussi, Morane.
Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a un vrai problème au sein de cette Fédération française de football. C'est que finalement, Noël Le Graët règne en maître. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut. S'il ne veut pas donner de rapport, s'il ne veut pas faire de communiqué de presse plus détaillé de ce qui s'est passé, il n'en fait pas. Et là, je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'il aurait été bien d'avoir un peu. un entretien, en tout cas, des espices, en tout cas, de l'entretien de ce qui s'est passé entre Deschamps et le
Gars. Et tu convoques une réunion d'urgence, bien sûr, dans un échec pareil.
Même pour faire semblant, même pour rassurer les gens, de dire que voilà, j'ai tapé sur la table, on est quand même champion du monde, ce n'est pas normal de se faire sortir. Et là, on voit la toute puissance
et la toute puissance. On l'a manie comme auditeur qui est tout à fait d'accord avec toi. Oui, Yacine Abdel.
Surtout, il faut juste parler du cas Benzema. Il y a quatre mois de ça, le Grec me disait, mais impossible que Karim Benzema puisse revenir en équipe de France. Du jour au lendemain, là, il change
le plus grand bien à tous les Français, Karim Benzema.
Et oui,
c'est pour moi qu'il dit.
Il y a une intervention au plus haut niveau. Il y a une intervention, c'est indéniable.
Heureusement qu'ils le disent. Mais comment on peut changer de position d'un moment à un autre et dire à moi? Karim Benzema, ça a toujours été comme mon fils.
Quand quelqu'un qui est supérieur à vous, c'est-à-dire il y a Monsieur Noël Le Graët qui règne en maître, mais il y a un autre maître aussi en France. Ouais. Et donc voilà, on est obligé de se soumettre.
Vous avez tout compris. Voilà. En fait, on va voir si là.
Il y a ce qu'il a dit, ça reste le patron. Ça reste le boss. Il fait ce qu'il a envie. S'il a envie de faire une déclaration, convoquer qui que ce soit, c'est lui.
Il n'y a qu'en France qu'on voit ça.
Mais en fait, je crois qu'en France qu'on voit ça.
Les Anglais, les Allemands, c'est pas la même chose.
Ça veut dire à chaque défait. Bon.
Joachim Löw, il a dû rendre des comptes.
Mais pourquoi faut faire ce que le voisin fait?
C'est ça que je comprends pas, moi. Il était très critiqué et même pendant la Coupe du Monde, il a dû rendre des comptes alors que le mec est en finale.
Oui, mais là, il a pas de
Joachim Löw, c'était le procès Patrick Gilles, ça.
Le seul compte pour moi qu'il a à rendre, c'est même pas. C'est juste. On a vu sa limite à tenir son groupe. C'est tout. C'est tout. Pour moi, il n'y a que ça. Maintenant, pour revenir à Noël Le Graët, je rejoins ce qu'il a dit. Toutes les rumeurs qui sont sorties sur Le Graët ont toutes été éteintes. On sait ce qui se passe en interne dans la Fédération française de football et personne ne veut en parler. Les gens, ils en parlent. À chaque fois, c'est éteint. On sait ce qui se passe. On sait. On ferme les yeux.
Il y en a qu'un qui parle.
Mais là, je parle pour la Fédération parce qu'il se passe des choses.
Il y a des journalistes qui sont. Il y a des journalistes diplômés aujourd'hui qui peuvent prendre le rôle de journaliste d'investigation et justement de mettre en lumière les dérives de ce président. Donc, si on a des journalistes qui sont à la base. Non, mais si je peux juste finir, voilà, excuse-moi. Sinon, on ne s'entend pas.
Les journalistes d'investigation.
Justement, c'est aux journalistes de faire leur travail, de mettre en lumière les dérives de Le Graët.
Il y en a qui le font. Notre confrère Romain Molina qu'on avait reçu.
Puisqu'aujourd'hui, comment on peut se contenir en tant que journaliste? Je ne sais pas quels sont les médias qui ont interviewé Le Graët sur le fait que l'entretien a duré 3 minutes. Comment est-ce qu'on peut se contenir du fait que, lorsqu'on lui pose la question sur Benzema, on peut se contenir de la réponse de « il m'a fait la bise avec un masque ». Je sais pas si vous avez vu l'entretien. Il a dit Karim Benzema, qu'est-ce que vous pensez de sa compétition, de son passage de l'équipe de France? C'est le seul qui est venu me faire la bise avec un masque. Ok. Qu'est-ce que je dois attendre de cette réponse? Quelle est justement la perspective vis-à-vis de Karim Benzema? Est-ce qu'on s'inscrit sur la durée? Je n'ai aucun respect pour votre travail. Je vous envoie des crottes de nez comme ça à tort et à travers. Et c'est inadmissible aux journalistes justement de surenchérir et de contre-répondre.
C'est vrai. Vas-y Fred. On va en revenir à Fred et après.
C'est vrai qu'on a eu la chance de recevoir Philippe Tournon. Et tu étais là, Yacine, tu l'avais dit d'ailleurs à Monsieur Tournon, tu l'avais dit. Pourquoi nous, je ne sais plus quel média en l'occurrence tu représentais à ce moment-là, mais pourquoi nous, à chaque fois qu'on a voulu venir en conférence de presse, on n'a jamais pu? Mais parce qu'il y a un jeu, l'équipe, les grands médias ne vont jamais se permettre. Oui, ils vont jamais se permettre.
Les questions sont filtrées, on a l'impression.
Personne ne va se permettre de se mouiller avec Le Graët. Et le journaliste qui lâche la bombe des dossiers cachés de la Fédération française de football, il grille sa carrière, c'est sûr. Donc il n'y a personne qui se mouille. Il y en a un qui a sorti les infos, c'est à prendre ou à laisser. Mais
c'est pour ça que j'ai toujours cru que les questions de Bertrand Latour dans les couloirs de l'équipe de France étaient des non-questions. C'était
Bertrand Latour.
Non, mais ça, c'est des écrans de fumée. Ce ne sont pas les vraies questions imposées. Les vraies questions imposées, ce sont le management de Noël Le Graët. Pourquoi il est en poste depuis tant d'années? Pourquoi un monsieur qui est né pendant la Seconde Guerre mondiale décide aujourd'hui du sport le plus populaire et le plus jeune au monde? D'accord, c'est ça les vraies questions. C'est pas Olivier Giroud, Karim Benzema, ce débat-là. Je pense que c'est ça alimente la vox populi. Et c'est pas le débat
qu'on
attend
aujourd'hui. Le football professionnel
Il est élu toujours à la majorité alors exactement. Qu'on connaît tous les problèmes. Comment se font les élections? On peut même se poser.
Comment choisir les candidats? Quelles sont les personnes qui puissent avoir?
Ben oui, bien sûr. Presque à l'élection de la CAF là qui s'est.
Il y a aucune différence. Peut-être qu'il y a
plus de.
Et il y a une chose aussi, il faut savoir que même à réunion avec Benzema, qu'est-ce qui va arriver? S'ils arrivent à licenciement, Et je ne sais pas si la Fédération française est capable de payer les indemnités de chômage, de licenciement de Didier Deschamps. Donc dès qu'on leur parle d'argent,
il y a de l'argent, Yacine.
Il y a de la plage.
Bien sûr, il y a de l'argent.
Yacine.
Oui, mais il y a de l'argent. Il y a de l'argent pour autre chose.
Ouais. Non, mais il y a de l'argent.
Non, mais il a raison, Yacine. Il a soulevé un point. Licencier Didier Deschamps, ça aurait coûté un bras à la fédération.
Bien sûr.
Ouais. Et donc forcément, si c'est un choix financier qui reste, il faut le dire. Comme les clubs sont transparents.
Et le disent parfois. À la puissance de Le Graët, il a annoncé que Zidane allait reprendre l'équipe de France. Mais ça fait au moins 3 ans.
Ça fait longtemps.
Ça nous souffre d'aucune contestation.
C'est aucune concurrence.
Ça fait très longtemps.
Aucune concurrence.
C'est quand tu sais quoi, Yacine ?
Un coup de pied dans la fourmilière, selon Mamadou, qui nous écoute ce soir.
Petite parenthèse hors contexte, ça m'arrange que Zidane ne reprenne pas l'équipe de France. Ça fera plus de binationaux pour les équipes africaines.
Ouais.
Donc voilà. Parce qu'on sait que si Zidane reprend les reins de l'équipe de France, on peut dire bye bye aux meilleurs binationaux.
Voilà. Ah, c'est pas le cas.
Moi, c'est ma vision.
Alors, messieurs, on a une question d'un auditeur. On a une question d'un auditeur qui nous dit. Voilà, c'est Johan qui nous dit. Et peut-être monsieur Noël Le Graët qui tient le foot par le biais du football amateur, Yacine.
C'est pas le football amateur, il ne serait jamais.
Les généraux, peut-être c'est le football amateur.
La preuve, c'est une très bonne question.
Non, mais vraiment, c'est
la journaliste fait le travail. C'est ce que j'ai à dire. C'est pas à nous de brainstormer cela autour de ce plateau.
Pour se faire réélire, il s'est servi de football amateur et de la Ligue de Paris en ayant Jamal Sandjak comme.
Ah oui, selon toi.
Dans son équipe, alors qu'il a toujours été son concurrent. Voilà. Et pourquoi pas Jamal Sandjak, président de la Fédération française de football. Il est jeune.
Ça
il dirige
sympa.
La plus grande le football amateur.
Pourquoi pas? Bien sûr.
Il a essayé.
Ça serait du renouveau.
Il a essayé et il faut lui poser la question. Il va vous répondre. Il est plus.
On l'avait reçu.
Il faut lui poser la question. Il va vous répondre sur le Noël Le Graët.
Voilà. Avant la pause, la dernière.
Ouais. Mais là, je vais rejoindre Yacine sur ce qu'il a dit.
Alors, vas-y.
Sa réélection. Noël Le Graët, il s'est appuyé sur le football amateur et on voit bien. Je crois en France, il a eu, je crois, au moins 10 ou 8 régions qui ont voté favorablement à sa réélection. Donc voilà. Donc le mec, il a été malin, il a été très, très stratégique. Il s'est dit que de toute façon, le foot amateur, si j'ai l'appui du foot amateur, je serai réélu. Et il a été très malin sur ce coup-là. Pourtant, pour moi, je sais, et j'arrête pas de le dire. Non, il n'y a pas que lui, parce que Sandjak.
C'est aussi les fausses alliances qu'on fait aussi.
Ça, il faut le dire.
Alors,
c'est pas que la France.
C'est pas la France, mais en tout cas, c'est un gros poisson.
Abdel. Il ne représente pas les autres régions, les autres fédérations, les autres ligues qui se passent en France.
Alors, Abdel, on termine avec justement cette équipe de France, Noël Le Graët, Didier Deschamps.
Tout a été dit. Après, il faut peut-être. Il va aller jusqu'au bout de son contrat, on sait que ça se terminera après. Parce que dans tous les cas, s'il avait été reconduit encore plus longtemps, ça aurait pu faire comme Joachim Löw qui a connu des grosses difficultés après son passage en Allemagne. Mais voilà, je pense qu'il fera sa dernière année et qu'après on verra du sang nouveau.
Il a déclaré après avoir gagné la Coupe du Monde et je ne ferai pas un autre.
Par contre, Joachim Löw.
Je n'irai pas au-delà de 2022.
Joachim Löw, on a plus vu qu'il était sur la fin, mais vraiment la fin de son ère avec la.
Ouais, mais la fin, mais ils savent partir eux. Ouais, les Allemands, ils savent être au rendez-vous, ils savent partir les Allemands.
On en parle
on fait pas là, on le disait bien.
Ça fait bien 20-30 minutes, on en parle, tout a été dit sur le plateau. En France, nous non.
Un débriefing, un brainstorming, après, quand même un petit déjeuner aussi, si tu veux, avec.
En fait, c'est que je crois qu'il y a un truc qu'on a oublié.
Comparé
c'est
à nous,
un facteur
des fois.
Qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a la Coupe du Monde aussi, qui fait qu'avec le Covid, tout ça, ça a tout décalé. Peut-être
on
que s'il n'y a pas eu le Covid,
ça sera la
Coupe du Monde l'année prochaine, mais décalé d'un an, Zidane serait venu direct.
On va voir comme un an.
Merci, Fala. Merci, l'équipe de Tom Foot. Vous restez avec nous, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM. On revient de suite pour la dernière partie avec cette finale Italie-Angleterre.
Time Foot spécial Euro 2021 revient dans un instant. 19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Eh oui, on est tous ensemble là encore avec l'équipe de Time Foot. Fala, Abdel est là avec notre consultante Alison, sans oublier Mourad et aussi Fred. Et oui, on a
ça sent les
vacances. Ça sent les vacances.
Voilà,
Yacine est toujours là. Le 01 53 48 3000 pour réagir avec nous et on va s'attarder sur cette fameuse finale de dimanche soir.
Time Sport, les prolongations.
Abdel, on ne l'oublie pas, Harry Kane a été désigné comme homme du match entre l'Angleterre et le Danemark sur la deuxième demi-finale, notamment hier soir du côté de Wembley. Et il sera bien en finale ce dimanche.
Je suis pas d'accord.
Cette ère.
Je suis
pas d'accord. Pour moi, l'homme du match, ça doit être Sterling.
Ouais,
je suis d'accord.
Ouais, c'est ça.
Une énergie incroyable.
On est d'accord avec
toi, Abdel. Un but et un pénalty provoqué.
Même si l'ouverture du quai. Même si l'ouverture de Kane sur le but contre son camp de Kier a été sublime, pour moi c'était soit Sterling, soit Harry Maguire qui depuis son retour est indéboulonnable et a montré toute sa classe, sachant qu'il est très très décrié par le prix de son transfert vers Manchester United.
Tu parlais de Kane homme du match. Après, pour revenir sur sa compétition, c'est pas un Kane que moi j'aime bien. Je préfère largement en club, parce que je pense qu'il n'exploite pas toutes ses qualités avec.
Il a le rôle d'Olivier Giroud, alors qu'il a les qualités d'un Karim Benzema. Donc c'est vrai.
Après, c'est l'animation offensive qui est faite comme ça pour qu'il soit devant. Il a quand même cet instinct de buteur, mais je pense qu'il pourrait avoir un rôle beaucoup plus décisif et important sur la qualité justement du jeu de l'Angleterre. Là, c'est très minimaliste, alors qu'il a des joueurs pour faire beaucoup plus. Après. Si on se projette sur la finale de dimanche, c'est pour moi deux équipes qui s'opposent. D'un côté, on a l'Angleterre, Mourad, il a cessé de le répéter, très pragmatique, une équipe comme on dit qui a les qualités pour aller au bout, forcément quelque chose qui ressort, mais juste beaucoup d'envie, beaucoup de solidité et le fait d'avoir pas mal de chances du champion de leur côté. Après, côté italien,
pas que de la chance de leur côté. Hein.
Ouais. Oui,
poursuivez.
Hein. Non, ouais. Oui. Bon, après,
alors,
ça,
les
c'est autre chose.
Après, mais c'est bien dit.
J'avais pas que Mike Dean était dans le camion de la VAR.
Les Italiens.
Mike Dean, c'était lui qui était là.
Alors, les Italiens, quoi qu'on en dise, même si beaucoup plus de jeux de possession avec les joueurs qui y sont, entre Verratti, Barella, Jorginho notamment, toujours une grosse solidité défensive. On cesse de parler de Donnarumma parce qu'il vient au PSG et je pense que on a envie de regarder ses performances, mais devant il est quand même bien protégé par Bonucci et Chiellini, sans parler de la blessure de Spinazzola qui a fait un bon euro jusque là.
Emerson l'a bien remplacé. Emerson l'a très bien remplacé.
On a vu qu'il y avait un gros.
Je pense qu'il y a eu en première mi-temps, on a ressenti un manque, mais en deuxième mi-temps, en termes d'apport offensif, Emerson il était excellent.
Ce qui peut manquer, pour moi à cette équipe, c'est, on en parle, hein, mais le numéro 9, Immobile, qui a pris le devant sur Belotti. On sait qu'avant il faisait limite un match sur deux, mais là. Ça manque de.
Moi, je préfère Belotti. Hein.
Ça manque d'instinct. Immobilier, contrairement à ce qu'on disait.
D'Immobilier.
Contrairement à ce qu'on disait de Kane, Immobilier, il joue beaucoup. Il essaye de faire le jeu un petit peu, de venir dans des situations alors qu'il devrait être tueur dans la surface. Insigné, je suis pas non plus très impressionné par sa compétition. Par contre, Chiesa, je pense que ça peut être un gros détonateur.
Merci Abdel, oui, Alisson.
Je pense que ça sera quand même une finale ouverte. Hein. L'Italie, c'est quand même une équipe qui joue. C'est plus l'Italie de 2006, Catenaccio, on marque un but et on verrouille tout, même si ils en sont encore capables à l'heure actuelle. Et je la trouve beaucoup plus homogène par rapport à l'équipe d'Angleterre. Je pense que sur toutes les lignes, il y a la qualité et il y a les qualités, que ce soit défensives ou offensives, qu'ils ont à faire valoir. Et surtout, c'est une équipe très très solide, l'Angleterre. On l'a dit tout à l'heure, c'est une équipe qui a beaucoup d'atouts, c'est une équipe qui a énormément d'individualité, c'est pas une équipe qui joue au ballon, c'est une équipe qui peut contrer très vite, très fort, très tranchante, mais je vois quand même, au bout du compte, l'Italie s'imposer.
Ouais, Fred, alors Fred, on revient à toi.
Ça a bien été résumé, mais c'est intéressant.
Et encore,
Alisson, c'est vrai que moi je me demande qui va garder le ballon, mais je pense que ça va être quand même l'Italie qui va garder le ballon.
Là, ça sera le problème.
Je pense que ce sera l'Angleterre.
Pour faire la l'Angleterre.
C'est sur cette thématique, moi, que je m'interroge, parce qu'on l'a vu face au Danemark. L'Angleterre a gardé le ballon, et face à l'Espagne, l'Italie n'a pas gardé le ballon. Et ils ont montré que c'est.
Ouais, parce qu'on a les masters en termes de possession de balle qui était l'Espagne.
Oui, c'est ça.
Donc toute possession qu'elle peut avoir, l'équipe d'Italie. Face à des Busquets et des Pedri, etc. Bon, c'est sûr qu'ils auraient dû revoir justement leur philosophie de jeu.
Peut-être,
et c'est ce qui a été fait. Après, moi, si je peux juste évoquer la finale, j'ai l'impression que la qualité des uns sont les défauts des autres. Donc, c'est-à-dire que le poste de gardien de but, j'ai l'impression qu'il y a un petit manquement côté anglais, alors que Donnarumma est au-dessus. Le milieu de terrain, je pense que le côté italien, il est au-dessus. Par contre, devant, devant et en termes de profondeur de banc, l'Angleterre.
Intéressant, vu comme ça.
Je pense que l'Angleterre peut être intéressant. Et au niveau des latéraux, je pense qu'il y a un petit avantage aux Anglais.
Alors voilà, Yacine,
un grand avantage aux Anglais, pas un petit avantage aux Anglais, mais il faut savoir à ce jour de finale, ça va être les deux pays, parce que ils ont une grande tradition footballistique et ancestrale. Ils vont retrouver, les Italiens vont jouer à leur façon et les Anglais vont jouer à leur façon. Et souvent, les matchs Italie-Angleterre, on assiste vraiment à du grand spectacle. Ça va être une très belle finale. Je pense que les Anglais n'ont rien à perdre devant.
Troisième, quatrième place en 90
devant Wembley, lors du mondial. Ils ont la chance de leur vie de pouvoir gagner un titre.
C'était un beau match.
Même si en demi-finale, ils ont eu le coup de pouce de l'arbitre, j'espère qu'en finale, ils ne l'auront pas.
Ah ouais. Certains prétendent justement le fait que l'Italie peut être défavorisée par rapport au fait qu'il n'y ait pas assez de supporters, qu'il y ait simplement 1000 supporters italiens qui seraient conviés. Il faut savoir qu'il y a une très très grosse communauté italienne à Londres. Ils étaient déjà plus de 40 000 face à l'Espagne. Donc il n'y aura pas forcément de déséquilibre. Certes, l'Angleterre sera à domicile, mais l'Italie, en termes de 12e homme, fera valoir ses chances. Voilà.
Non, après, pour en venir ce que tu disais, Fred, moi je te dis, je pense que l'Angleterre aura légèrement un peu plus le ballon, parce que c'est plus dans son ADN que l'Italie. Après, si tu as regardé le match face à l'Espagne, Mancini, dès le départ, il a dit hey, les gars, on leur laisse le ballon tout le match. Ça sert à rien, on va courir après. C'est que l'Espagne, c'est son identité de possession de balle, de faire courir l'adversaire. C'est quand... L'Italie était déjà prête, sauf que on a pu voir que physiquement, c'était à deux doigts de craquer l'Italie. À un moment, c'était chaud.
Les Anglais, peut-être pas.
Ouais, les Anglais, physiquement, j'ai trouvé.
Il y a plus de certitude côté anglais.
Ouais,
plus de certitude.
Physiquement, surtout physiquement. Mais maintenant, pour moi, c'est clair, ça va être un facteur. Et l'Italie, je vous le dis, elle va la remporter cet Euro.
Ouais.
C'est que.
Toi, c'est con. Ouais,
depuis le début. Pas maintenant, parce que faut regarder.
Il n'y a pas de problème, Fala.
Non, de ouf. Mais depuis le début.
Je pense qu'il y a une boule de cristal, Fala.
L'Italie.
On n'était pas au courant.
L'Italie,
il y aura un match très disputé.
Laisse-le terminer.
C'est la roulette. C'est la roulette.
Vas-y. Je vais me couper. On prend la parole.
Je suis obligé de rebondir sur ce que tu dis. Puisque tu prédis l'avenir.
Ah bah.
Je prédis pas l'avenir, j'ai prédit l'euro.
On a une émission pour ça.
Non, mais après, juste pour finir, entre l'Angleterre et c'était final là, entre l'Italie et l'Angleterre. Pour moi, la différence à ce jour-là, où l'Italie, de toute manière, de toute façon, elle a été critiquée dès le départ. On les a enterrés dès le départ, l'Italie.
Ouais. Et depuis, parce qu'en Italie, on y croyait un peu. Quand même.
Non, mais hormis en Italie. Mais tout le reste, tout le monde descendait l'Italie. Tout le monde ne voyait pas l'Italie aller là.
Mais c'est pas là. D'accord, dès le premier match.
C'est pour ça que j'ai dit attention. Avant la compétition, même quelques semaines avant, j'avais dit attention à l'Italie. L'Italie reste depuis 2010 sur 27 matchs en défaite, 5 nuls. C'est pas rien. C'est une statistique qu'il faut prendre en compte. C'est pas rien. Et ils ont bossé depuis 3 ans. Mancini bosse 30 ans.
Il y a beaucoup plus de fraîcheur du côté anglais parce qu'il y a eu beaucoup plus de changements qui ont été faits dans la compétition, que ce soit dû au blé.
L'Italie a joué plus de points.
C'est ça, mais l'Italie, ils ont un peu le profil à la Coupe du Monde de la Croatie, qui a fait beaucoup de prolongations, etc. Ouais. Et qu'après, ils ont un petit peu pêché physiquement en finale. Mais tu sais, je trouve que justement, l'Italie a plus l'ADN de vouloir jouer au ballon dans cette compétition-là. Et je pense que c'est eux qui vont plus l'avoir, parce que l'Angleterre, ils sont pas à l'aise avec. Je pense que ils mettent beaucoup de vagues. En fait, ils vont vite vers l'avant. Et après, ça percute. Mais je pense que c'est ça leur ADN. Ils sont pas là pour construire. Ils ont 6 mecs derrière, enfin 7 avec Pickford. Et après, les gars, les 4 devant, allez-y. Et c'est là que ça tourne.
L'Angleterre a toujours été construit comme ça.
Non, mais c'est vrai, mais... honnêtement, eh ben, je pense que l'Italie, avec le milieu qu'ils ont, qui est beaucoup plus expérimenté par rapport à Declan Rice et Phillips, qui devait
technique.
Expérimenté et technique aussi. Mais et le fait aussi, c'est pas la même animation de jouer à 3 au milieu et à 2 au milieu. Ils peuvent se faire étouffer et au milieu, ça peut vite exploser. Et c'est pour ça justement que je pensais au changement de système de Southgate. Je me suis dit que peut-être que ils pouvaient jouer en 3-5-2 en finale, tenter un coup, mais Ça s'arrête dans un coin de ma tête.
Allez, Mourad. Et aussi Alisson.
Non, moi je voulais tirer justement, il a parlé de Southgate. Moi, je voulais tirer mon chapeau à Southgate, puisque l'Angleterre, il y a une tradition de club très ancrée en équipe nationale. Et là, justement, elle a réussi à mettre les égaux clubs de côté pour pouvoir créer
réunir,
une symbiose autour de cette équipe nationale. L'Italie, généralement, ils arrivent à gérer cet égo club et éventuellement gagner des tournois, des Coupes du Monde, des Euros.
Patrie.
Par contre, en Angleterre, ça a été très compliqué. Et là, on le voit, ils sont tous unis derrière leur coach, qui vont tous dans le sens du collectif, qui acceptent le turnover. On a vu la gestion de Grealish qui est rentré, qui est ressorti et qui a accepté d'être ressorti. Il a été malléable aussi durant ce tournoi. Il a joué avec une défense à 3.
Le joueur le plus populaire pratiquement en Angleterre.
Ouais, c'est fou. Il l'appelle the working class star, donc c'est-à-dire la star ouvrière, justement pour vous dire l'impact et la passion qu'ont les Anglais pour le football. Donc moi je mets une petite pièce sur les Anglais, si c'est la transition serait les pronostics, parce que je les vois beaucoup plus complets et surtout avec une profondeur de banc incroyable avec des Rashford, avec des Phil Foden, avec Calvert-Lewin.
C'est ça le problème de l'Angleterre, c'est qu'ils ont une profondeur de banc, ils ont un effectif très riche, ils ont malheureusement, tout à l'heure on parlait, pour moi ce qui leur manque au milieu de terrain, ils n'ont pas des joueurs de ballon.
C'est
et
vrai,
donc,
c'est vrai.
Du coup, ils sont obligés de jouer avec leur force.
Ouais, exactement.
Donc, c'est ce qu'il fait. C'est ça la grande qualité de Southgate, c'est qu'il essaye de tirer de chaque joueur. D'ailleurs, en parlant tout à l'heure de Sterling, même à City, moi je ne l'ai jamais vu, parce qu'à City, souvent il essaye de faire la différence tout seul. Là, à chaque fois quand il déborde, j'ai l'impression qu'il lève la tête, il essaye de trouver soit Harry Kane, soit
quelqu'un.
Et c'est très important, parce qu'à City, des fois il déborde, il y a Mahrez, ils sont fous, ils essayent de se démarquer.
Ouais.
Donc là, je pense qu'il aura inculqué le pouvoir, c'est-à-dire la faculté de travailler et de jouer ensemble, c'est-à-dire de souffrir ensemble. Et pour moi, la différence va jouer sur les latéraux. Et je pense que c'est là où les Anglais peuvent faire la différence.
On verra bien avec ces latéraux. Oui, Alisson, avant la fin de cette émission. On va essayer d'avoir Falaï aussi.
On est en train de comprendre le travail qu'il fait. Parce que jusqu'à présent, il était très décrié parce qu'on ne comprenait pas où il allait, avec quel joueur il allait et quel système de jeu il mettait en place pour cette équipe d'Angleterre. Mais là, on est en train de comprendre, justement, Yacine l'a si bien dit, le travail qu'il fait en interne sur des joueurs comme Sterling, qui n'ont pas beaucoup joué cette année avec Manchester City, qui ont été décriés alors qu'on connaît le potentiel, on connaît le talent. Et là, Southgate a réussi à tirer le meilleur de ces joueurs. Alors, mettre sur le vent Foden, c'est quand même une grosse décision.
Oui, il faut avoir le courage de le faire.
C'est énorme.
Charisme,
et titulariser Saka, c'en est une autre. Mais là, on comprend.
Je pense que c'est la surprise de cet Euro, Saka.
Il est en train de construire son équipe pour cet Euro. Donc, s'il va au bout, c'est chapeau et que tout le monde lui fasse ses excuses quand même.
Ouais.
Parce qu'il aura fait quelque chose de
c'est
grand. Clair.
C'est ça. On a Saïd qui nous dit justement. Yacine réussit toujours à placer Mahrez. C'est très très fort. Oui, Fred.
Plus attention.
Alors, Fred, on t'écoute.
Non,
vas-y, Fred.
Alors,
vas-y.
Non, rapidement, c'est vrai que je reviens sur ce que vous disiez. C'est vrai que l'humilité, ça a fait du bien à certaines équipes. Et les équipes qui sont plus mises en valeur, c'est les équipes qui partaient peut-être. Bon, je trouve pas que l'Angleterre et l'Italie partaient de loin, mais ils étaient venus pour prendre un peu une revanche, et encore plus pour l'Italie.
L'Italie, ça part de loin quand même, hein.
Et l'Espagne, c'est l'équipe.
Très loin.
Ah oui, hein.
Très loin.
L'Italie,
c'est surtout l'Italie, hein.
La claque en 2018, non qualification, enfin, ça part de loin.
Et tout le souci en interne de l'équipe en l'Italie, du football italien.
Mancini, là, il a quand même tiré.
C'est vrai que c'est fini.
C'est ça l'importance d'avoir un coach de grande qualité, c'est ce que peut-être la France n'en a pas.
C'est vrai que l'Italie sous Graziano Pelé, Simone Zaza et Ventura en sélectionneur, c'est plus la même que celle d'aujourd'hui, je suis d'accord.
Non, mais après, faut.
Ça fait plaisir. Et moi, pour revenir sur ce match, je pense, pour donner un prono, ça va être compliqué. Je pense que ça va se jouer en prolongation, en tout cas. Et voilà, la problématique sera dans qui va garder le ballon, qui va pas le garder.
L'Italie.
Et
l'Angleterre.
Sur ce que je vois sur cette table, je pense que l'Angleterre va plutôt jouer en transition. L'Italie va plutôt me garder le ballon, j'ai l'impression. Mais en tout cas, oui, je voulais remercier les équipes qui ont gardé de l'humilité, des joueurs comme Grealish qui sortent, qui rentrent et qui ressortent 20 minutes après, n'ont pas fait le même speech que Coman a pu le faire. Et c'est important d'avoir de l'humilité dans une compétition. Et c'est ce que la France a eu en 2018, c'est ce qui a manqué à la France cette saison.
On n'oubliera pas ça. Oui, Fala, on termine avec toi.
Rapidement. Après, moi, ce qui m'avait alerté, et j'avais peut-être pas fait attention particulièrement, mais pour une fois. On sait que la presse anglaise est très critique, que ça soit avec les joueurs anglais en club ou surtout en sélection où on sait que... Ils l'ont tué, mais avant que l'Euro commence, ils étaient tous derrière lui. Non, mais avant l'Euro, les déclarations de l'équipe, ils ont dit que l'équipe, des journalistes comme le Sun, tout comme ça, pour une fois, ils avaient un coach qui pouvait emmener cette équipe. Ça, Je te le dis, c'est
la réponse qu'il leur a donnée, c'est quelqu'un qui a toujours été dans la discrétion, dans le travail.
C'est ça.
Je pense qu'il croyait en ses idées. Il savait où il allait revenir.
Exactement.
Et la preuve, il a emmené l'Angleterre. Quoique, avec ce qui s'est passé en demi-finale contre le Danemark, moi j'étais pour les Danois. Mais les Anglais méritent amplement de jouer cette finale.
Yacine, rapidement,
juste pour finir, pour
on a plus le temps.
Voilà. Dit Alisson, mais ouais. L'Italie, c'est fini le jeu Catenaccio depuis 2012. Ils ont
on verra bien.
Que maintenant, ça joue offensivement.
C'est dimanche soir. En tout cas, un grand merci voilà, pour ces réactions avec Yacine, avec Fred, sans oublier Alisson, notre consultante, et Abdel avec nous, et notre Mourad. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM à 22h. Comme à son habitude, c'est Vanessa qui sera avec vous, chers auditrices et auditeurs. Nous, on revient demain pour la dernière de cette spéciale Euro dans Time Foot. Bye bye et très belle soirée à toutes et à tous.
Retrouvez Time Foot, spéciale Euro 2021, du lundi au vendredi de 19h à 21h sur Beurre FM.